Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous et bienvenue dans Apolline Matin, il est 6h57, ravi de vous retrouver, on est vendredi 20 février, on est en direct ensemble toute la matinée. Vous avez la parole, vous le savez, quand vous le souhaitez au 3216 et sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. Faut-il interdire la marche en hommage à Quentin Derenque, prévue demain à Lyon? La préfecture du Rhône doit prendre sa décision dans la journée, un rassemblement qui risque de dégénérer, alerte plusieurs élus locaux. À 7h10, nous serons en direct avec un sénateur écolo du Rhône qui redoute des violences et qui appelle le ministère de l'Intérieur même à empêcher le rassemblement. Alors que d'un autre côté, Jean-Michel Aulas, candidat, demande qu'on affiche le portrait de Quentin Derenque sur la mairie de Lyon. À 7h50, le débat RMC avec Cécile Duflot et Charles Consigny. Puis on va poursuivre dans le face-à-face sur RMC et BFM TV ce matin à 8h30. Marie Chantrey reçoit Thibaut de Montbrial, spécialiste des questions de sécurité. À 7h40, on en a parlé dans le Morning RMC ce matin, on parlera du permis de conduire qui pourrait être facilité, ne pas marquer totalement l'arrêt, un stop. Changer de voie sans contrôler s'il n'y a aucun danger, ce ne sera pas éliminatoire. Alors est-ce qu'on est en train de brader le permis? Ou est-ce qu'il faut le simplifier, l'accélérer? On vous attend ce matin au 32-16. Est-ce que ça vous inquiète pour votre sécurité sur la route quand même? Dans un instant, le journal de 7h avec Thibaut Texer. Mais tout de suite, la météo, Géraldine Demory. Géraldine, ça se calme enfin un petit peu là?
Oui, on va vers le mieux. On y va lentement, mais on va quand même vraiment vers le mieux. Il reste trois départements en vigilance rouge pour les crues. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime. La Gironde et le Lot-et-Garonne, qui étaient en vigilance rouge depuis le 11 février, sont repassés ce matin en vigilance orange, comme 12 autres départements qui restent en vigilance orange, donc pour ces crues sur la moitié ouest. Les Alpes aussi en vigilance orange pour le risque d'avalanche, ça ce sera jusqu'à 10h, puisqu'on risque encore des coulées de neige dans les Alpes, mais aussi du côté des Vosges. Sur la Méditerranée, on va avoir beaucoup de soleil, encore beaucoup de vent, beaucoup de mistral et de tramontane. Ailleurs, c'est encore assez gris. Cet après-midi, on va retrouver des éclaircies quand même sur le sud-ouest. On gardera des averses, surtout vers les relief de l'Est, un peu de pluie aussi vers la Manche, mais sinon oui, ça va aller quand même beaucoup mieux. Les températures en légère hausse, cet après-midi on aura 10 à Lyon, 11 à Paris, Lille, 14 à Marseille, à Bordeaux, jusqu'à 19 à Bastia, et on va avoir beaucoup de douceur pour tout le week-end.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Un excellent réveil à toutes et à tous, vous avez fait le bon choix, vous écoutez RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de 7h, c'est le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. 7 personnes mises en examen dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenque. 5 au moins ont été écrouées, parmi elles l'assistant parlementaire d'un député insoumis soupçonné d'avoir incité les autres à commettre des violences. Maisons inondées, routes fermées, transports à l'arrêt, les conséquences des crues ce matin, ça continue. 3 départements sont toujours en vigilance rouge. Et un permis au rabais simplifié, moins rigide, une idée qui fait son chemin. Vous l'entendrez à la fin de ce journal.
7 hommes âgés de 20 à 26 ans mis en examen dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenque.
6 ont été mis en examen pour homicide volontaire, un autre pour complicité. Julie Brault, service police-justice RMC. Il s'agit de Jacques-Élie Favreau, ancien assistant parlementaire de l'insoumis Raphaël Arnaud.
Oui, concrètement, Jacques-Élie Favreau est soupçonné d'être l'instigateur, celui qui a initié le lynchage mortel de Quentin Derenque. Mais les enquêteurs estiment à ce stade qu'il n'a pas porté de coup mortel, contrairement aux 6 autres mis en cause. Des hommes au profil très jeune, pour certains encore étudiants. 2 d'entre eux ont des antécédents judiciaires, notamment pour violence et port d'armes. Lors de leur garde à vue, certains des suspects ont reconnu avoir porté des coups à Quentin Derenque ou à d'autres militants d'extrême droite. Mais ils contestent tous avoir eu l'intention de tuer. L'enquête est désormais confiée à 3 juges d'instruction qui ont aujourd'hui un objectif principal, finir d'identifier toutes les personnes qui ont frappé Quentin Derenque. Ce n'est pas le cas pour le moment, a indiqué hier le procureur de Lyon.
4 autres gardés à vue ont été remis en liberté, soupçonnés d'avoir aidé les suspects à se cacher. Ils seront convoqués prochainement pour s'expliquer. Et c'est dans ce contexte qu'une manifestation prévue demain inquiète les autorités. Elles redoutent un affrontement entre membres de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite en marge d'une marche réclamant la justice pour Quentin, prévue demain à 15h à Lyon. Le maire de la ville, Grégory Doucet, demande son interdiction. La préfecture va rendre sa décision dans la journée.
Et d'ailleurs, il y a d'autres voix à gauche, hein, au-delà du maire de Lyon, qui appellent à empêcher ces rassemblements, qui créent des débordements ce week-end à Lyon. On sera en direct avec Thomas Dessus, qui est sénateur écologiste du Rhône, juste après ce journal. Mais dites-nous, vous, Est-ce qu'il faut interdire cette manifestation? Vous allez peut-être y prendre part, vous êtes lyonnais, on vous attend au 32-16 ce matin.
Des mots qui font polémique, ceux de Martine Vassal, candidate de la droite et du centre à Marseille hier soir lors du débat des municipales organisé sur BFM TV.
Moi, figurez-vous que mes valeurs, elles n'ont jamais changé. Donc, c'est le mérite, le travail, la famille, la patrie.
Je crois que vous avez dit travail, famille, patrie.
Oui.
C'est le slogan du monsieur Pétain, ça.
Oui, d'accord. Mais moi, c'est mon slogan et ce sont mes valeurs.
Ok.
Et le mérite aussi, le travail aussi, et la famille aussi. D'accord. Et oui, c'est ainsi.
Voilà. Un travail, famille, patrie, devise officielle de l'État français sous le régime de Vichy. Les mots ont choqué, vous l'avez entendu, le maire et candidat sortant à sa réélection, Benoît Payan, face à la levée de bouclier, la candidate ajoute sur ses réseaux sociaux l'humanité et la solidarité, dénonçant une attaque injuste de ceux qui détournent ses propos pour la comparer à Pétain.
Je sais pas, quand on l'a vu en direct, ça interpelle tout le monde, travail, famille, patrie. Je sais pas, vous êtes Marseillais en particulier, on vous attend au 32-16 ce matin, ça vous a peut-être... choqué les propos de Martine Vassal hier soir, n'hésitez pas. 7h03 sur RMC, la vigilance rouge au cru levée ce matin en Gironde et dans le Lot-et-Garonne.
Il reste donc 3 départements ce matin en alerte maximale, c'est le cas de la Loire-Atlantique en raison des chaussées inondées. Une partie du périphérique nantais sera fermée dans les deux sens de circulation. Dans le Maine-et-Loire, département vasoin, le trafic des tramways restera partiellement interrompu. Ce matin, on guette le niveau des eaux qui pourraient grimper dans la journée. Car si la pluie s'est arrêtée, le danger n'est pas écarté. C'est le cas en Charente-Maritime du côté de Saintes où il faudra du temps pour que l'eau regagne la mer et en attendant, l'attente est longue pour les sinistrés. Les commerçants ne sont pas épargnés. Amélie Courtet.
Sur cette avenue fermée à la circulation, on croise plus de commerçants que de clients.
Mes petites mamies, elles vont pas s'amuser à faire de l'équilibre sur des planches en bois, donc elles vont rester chez elles.
Planches en bois qui servent ici de trottoir. Laurent patiente alors devant son magasin bio, les mains dans les poches.
Bah déjà, on peut plus se faire livrer. Ça, je viens de faire les dates de péremption. Je vais pouvoir en balancer pas mal parce que ça n'aura pas été vendu.
Des kilos de fruits, de légumes et de produits frais à la poubelle.
C'est perdu, c'est perdu. C'est plus au niveau du moral que ça bouffe. Quand on voit la vitesse où ça monte, c'est désolant.
Lui a décidé de ouvrir son commerce que le matin, mais d'autres gardent le rideau baissé. C'est le cas de Marie, la coiffeuse. Fermée toute la semaine, indique un mot sur la vitrine.
Oui, on est obligé de fermer.
Au téléphone, elle explique.
Hier, j'avais 1,20 m dans la cave. Ça fait 3 000 euros de manque du chiffre, quoi, à peu près. Ben, c'est pas drôle, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On peut pas empêcher la rivière de monter. Hein.
Sur le trottoir d'en face, malgré les sacs de sable, l'eau s'est infiltrée dans l'épicerie de Taher.
C'est galère un petit peu. Première fois dans ma vie que je vois des trucs comme ça et je sais pas quoi faire.
Faites des photos, beaucoup de photos.
Répète son comptable au bout du fil, car après la décrue, il faudra se plonger dans les démarches avec les assurances.
Et pour les sinistrés, Sébastien Lecornu a promis hier une indemnisation au plus vite. À retenir également ce matin dans l'actualité, le rappeur Naps qui va faire appel. Il a été condamné hier à 7 ans de prison, reconnu coupable d'un viol sur une femme durant son sommeil. Ça s'est passé dans une chambre d'hôtel à Paris en 2021. Et puis l'ex-prince Andrew, regard à gare, photographié par la BBC hier soir à la sortie de sa garde à vue, libéré sous contrôle judiciaire après son interpellation hier matin en Grande-Bretagne pour faute dans l'exercice de ses fonctions officielles en lien avec l'affaire Epstein.
7h05 sur RMC et on vous attend sur cette question au 32-16. Vous appelez nombreux depuis ce matin. Un permis de conduire un peu plus juste et moins rigide?
Oui, un stop légèrement glissé, un changement de voie sans véritable contrôle, des erreurs actuellement éliminatoires au permis de conduire qui pourraient bientôt ne plus l'être. C'est l'idée d'un groupe de travail piloté sous la direction de l'éducation routière qui envisage de revoir les règles d'obtention de la petite carte rose, une simplification, Victor Gérard, qui permettrait notamment de raccourcir les délais de passage à l'épreuve.
Oui, car aujourd'hui, 90% des échecs à l'examen sont liés à une erreur éliminatoire. Il en existe 10 en France, un stop mal marqué, une priorité refusée, un sens interdit emprunté, et l'épreuve s'arrête net, même en l'absence de danger réel. Une directive européenne prévoit des règles plus souples, l'échec n'étant prononcé qu'en cas de mise en danger concrète, à l'inspecteur ensuite de justifier sa décision. Autrement dit, sans danger avéré, le candidat n'est pas automatiquement éliminé. C'est ce modèle que le groupe de travail souhaite étudier.
Ce serait une dramatique erreur.
Estime Vincent Jullet-Parade, il est avocat spécialisé en droit du dommage corporel.
Quand vous instaurez une plus grande tolérance sur ce genre, faute élémentaire du permis de conduire, c'est que vous envoyez aussi le message que si ça passe à l'examen, c'est que ce n'est plus si grave que ça. Il ne faut pas retirer sa valeur à cet examen qui est fondamental.
Autre piste de travail, délivrer le permis malgré une faute éliminatoire isolée, mais sous condition, atteindre un niveau minimal de compétences et suivre ensuite 5 heures de formation obligatoire.
Et pour ceux qui ont le permis, il faudra de la patience aujourd'hui, début des vacances de la zone C, Montpellier, Toulouse, mais aussi la région parisienne avec du monde. Dans le sens des départs, Bison Futé hisse le drapeau orange sur un grand quart nord-ouest. La première d'Habib Bey sur le banc de l'OM à Brest ce soir, coup d'envoi de la 23e journée de Ligue 1 sur RMC. Retour aux sources pour l'ancien capitaine du club ambitieux pour l'OM, Maxime Thiette.
Oui, 13 jours après son dernier match avec Rennes, le successeur de Roberto De Zerbi veut redonner à son club un calme olympien.
Ce qui est important, c'est d'apaiser le contexte. Et ce que j'ai dit aux joueurs tout à l'heure en les voyant, et c'est ce qui va faire aujourd'hui qu'ils vont se sentir en sécurité pour évoluer, peut-être moins sous pression. Mais le plus important, c'est justement apaiser ce contexte, mais qui restera volcanique quoi qu'il arrive. Vous pouvez pas changer l'état d'esprit de ce club et c'est ce qui aussi en fait la beauté.
Joueur de l'OM entre 2003 et 2007, Habib Bey connaît le contexte marseillais.
Le club aujourd'hui reste un club avec une aura qui est énorme. Ça n'a pas changé, mais c'est le seul atout que ça me donne. Ça me donne pas de crédibilité plus qu'un autre. Je serai attendu comme tout le monde sur les résultats.
À commencer par ce soir à Brest pour convaincre les supporters.
J'étais un peu mitigé, mais après il connaît bien le club, il connaît bien le cadre. Il a fait plus d'une centaine de matchs chez nous. C'est un bon coach, je pense, pour la fin de la saison. Après, est-ce qu'il va rester à l'OM ?
Moi, je pense qu'il va faire beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui est passé par l'Olympique de Marseille, il connaît le club, je suis très confiant.
Après ce match et avant la réception cruciale de Lyon dans 9 jours, les Marseillais partiront en stage à Marbella pour souder le groupe.
On retient également la défaite de Lille en barrage de Ligue Europa, battu 1-0 hier soir par l'Étoile Rouge de Belgrade. Et puis une nouvelle chance de médaille pour le biathlon français aujourd'hui. Dernière épreuve pour les hommes avec la Mastart. On suivra aussi le ski cross avec peut-être une 20e médaille au compteur après l'argent et le bronze hier en ski alpinisme.
Merci beaucoup Thibaut Texer. C'était le journal de 7h sur RMC. Vous réagissez à tous les sujets que vous venez d'entendre. On aura des appels sur le permis de conduire à tout moment sur RMC. Le permis facilité, glisser, un stop. J'adore cette expression, c'est-à-dire ne pas s'arrêter, ne pas marquer l'arrêt au stop ou alors changer de voie sans contrôle. Ce sera plus forcément éliminatoire. Ça vous fait peut-être réagir. On vous attend au 32-16. Alors, il y a quelqu'un en fait ? Parce que, pardon, il ne s'affiche pas sur mon écran. Je vais être très transparent. Je croyais qu'il n'était pas encore arrivé. C'est pour ça que je traînais un peu. Salut Fabien.
Oui, bonjour Mathieu.
Écoutez, vous n'étiez pas sur mon écran, je me suis dit, il n'arrive pas Fabien, on le rappellera après. Comment allez-vous Fabien ?
Ouais, ça va, tranquillement.
Je crois que vous êtes routier de Vendée, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais.
Bon, et sur le permis de conduire, ça vous choque ou il faut faciliter parce qu'aujourd'hui, il y a des temps d'attente colossaux et que c'est difficile de le passer ?
Ouais, il y a des temps d'attente, ça je suis d'accord, c'est pénible, surtout dans les grandes villes. Nous, en campagne, c'est peut-être un petit peu plus facile. Mais franchement, c'est moi, j'ai marqué, quand ma fille a eu son permis, je l'ai reprise, quoi. Parce qu'on leur apprend rien, on sait pas. Alors déjà, ils apprennent sur des petites voitures, donc dès qu'on arrive sur des voitures un peu plus grosses, ils savent plus garer.
Un peu SUV, un peu monospace. Mais alors Fabien, c'est la question exactement que je vais poser à mon invité qui proteste tout à l'heure à 7h40, qui représente les instructeurs d'auto-école. Aujourd'hui, vous êtes un professionnel de la route, Fabien. Quand on a le permis, quand on l'obtient, on sait pas encore conduire. On est d'accord que l'apprentissage y continue.
Ouais, je suis d'accord.
Donc qu'est-ce que c'est si grave finalement d'avoir une formation allégée ?
Mais en fait, Mathieu, souvent, je t'entends avec Pascal. Vous avez des débats. Je vois par exemple l'autre jour, enfin il y a un petit moment maintenant, c'était les accidentés suite au SUV ou alors les 30 km/h dans les zones. Ça, il y a déjà plein d'accidents et on met des armes par destination à des enfants qui sont pas responsables. Et à 17 ans, regardez le gamin là qui a tué, là, je sais plus c'est dans quelle ville, là, à Nîmes je crois. Et 17 ans, il a tué un enfant ou il a blessé l'enfant, je sais pas. Mais après ce que je rends pas compte, c'est à 17 ans. C'est de la responsabilité des parents. Et moi, ma fille a eu son permis à 17 ans, elle a conduit à 18.
Ouais.
C'est tout un enchaînement de problèmes qu'il faut régler, quoi.
Pour vous, les conséquences, on les paye ensuite sur la route, sur ce qu'on ne fait pas au moment du permis ou de l'examen. Fabien, on continue d'en parler. Fabien, depuis la Vendée ce matin en direct avec nous, on continue d'en parler. Et à 7h40, on sera avec Philippe Destarquette, qui est secrétaire général du SNICAFO. C'est les instructeurs d'auto-école, les inspecteurs. Pardon. Il est 7h11 sur RMC. On est à la veille d'un week-end sous haute tension, très haute tension à Lyon, avec une marche organisée demain en hommage à Quentin Derenck, militant d'extrême droite, lynché en pleine rue et décédé samedi. Une marche à laquelle ne participera pas sa famille.
Les parents ne seront pas présents à cette marche, ils ne sont pas à l'initiative de cette marche, ils ne la soutiennent pas, ils n'en seront pas.
C'est ce que dit l'avocat de la famille. Hier, votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut interdire la marche organisée demain. Thomas Dessus, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes sénateur écologiste du Rhône. Vous avez écrit au ministre de l'Intérieur pour empêcher cette marche. Et pour vous, il faut que la tension retombe. C'est votre parti pris, donc dans un instant, sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h15 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Une marche en mémoire de Quentin de Ranque prévue demain à Lyon. Quentin de Ranque tué la semaine dernière. Marche organisée par des proches du jeune militant d'extrême droite. Votre parti pris, Thomas Dossus, sénateur écologiste du Rhône, c'est qu'il faut interdire cette marche. Vous le demandez au ministre de l'Intérieur. On n'est plus capable de tenir une marche blanche dans la troisième ville de France, Thomas Dossus?
Aujourd'hui, on pense que le contexte actuel est encore inflammable et ne permet pas évidemment que cette marche se déroule dans le calme et l'apaisement. Et nous le regrettons. Et vous l'avez dit, la famille de Quentin a annoncé ne pas vouloir y participer. On craint effectivement des débordements avant, pendant ou après la marche. On a vu l'appel à venir à Lyon circuler dans des boucles et dans des réseaux néo-fascistes dans toute l'Europe. Avec, nous le craignons, un désir de revanche.
Mais pardon Thomas Dossus, je me mets à la place de notre auditeur qui nous écoute. On autorise tout un tas de manifestations avec un risque de dérapage. C'est aussi le rôle de l'État, de la police de l'État, de la préfecture, d'assurer la sécurité d'une manifestation. Vous avez beaucoup, chez Les Verts, soutenu la liberté de manifester, l'État de droit. Vous avez pourfendu l'État d'urgence. C'est valable que pour les zadistes en fait.
Non, ce n'est pas ça, évidemment, que je dis, mais il y a une inquiétude très forte qui monte au sein des habitants et des commerçants à Lyon, pour une simple raison, c'est que Lyon a connu des violences, notamment animées par des groupuscules d'extrême droite qui ont été dissous les uns après les autres, et nous craignons que ces groupuscules agissent de la même façon. Et oui, il y a un contexte particulier à Lyon, politique autour de ces groupuscules, qui fait que cette marche ne peut pas se dérouler dans le calme et l'apaisement. Et oui, la liberté de manifester est un droit fondamental, et donc on aurait plutôt voulu qu'un hommage puisse être rendu, mais là, ce n'est pas le cas.
Alors vous l'avez dit, vous craignez qu'il y ait l'arrivée de gros bras venus d'autres pays d'Europe. On sait, on a parlé de la scène lyonnaise cette semaine, en l'occurrence, entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche. Ça va quoi? Vous craignez quoi? Que toutes les ruelles avoisinantes deviennent des scènes de bagarre?
Exactement, on l'a déjà vu hein, dans des contextes un peu similaires, et surtout après les manifestations, parfois le soir, après que ces groupuscules se soient un peu alcoolisés, qu'il y ait des descentes dans les rues. On a déjà vu une permanence syndicale se faire casser cette semaine, on n'a pas envie que des scènes identiques se déroulent. Donc, je pense qu'il faut appeler au calme, l'enquête est encore en cours, parce que c'est important qu'aujourd'hui, que la sérénité revienne.
Thomas Dossus, une question plus politique. Les regards sont beaucoup portés sur la France Insoumise cette semaine, mais chez vous, à Lyon, en 2022, l'adjoint à la sécurité de la mairie écolo a assumé de travailler avec la jeune garde contre l'extrême droite, un travail que nous menons avec des associations investies comme le planning familial, la jeune garde et d'autres structures. Fin de citation. Faut faire le ménage à gauche, Thomas Dossus.
Je vais corriger, c'est 2021, la dernière fois où le travail a été engagé avec la jeune garde. Comme je vous l'ai dit, il y avait à Lyon des locaux occupés par l'extrême droite violente et qu'on essayait de faire fermer. Et donc, on a travaillé avec l'ensemble des interlocuteurs, dont la jeune garde. Mais oui, je pense qu'il y a une clarification à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ont mené cette bagarre de rue ne sont pas de notre camp politique. Et oui, il y a un ménage à faire concernant la violence politique à gauche.
Et à l'inverse, Lyon toujours, hein, un candidat qui demande au maire d'afficher le portrait de Quentin de Ranque sur l'hôtel de ville pour honorer sa mémoire, pour dire, je cite, le refus de la haine.
Oui, moi je pense qu'on est encore dans le cadre de l'enquête et honnêtement, vu les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les événements, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour ça.
Trop tôt pour ça, donc trop tôt par rapport à l'enquête, Thomas Dossus. Donc c'est pas juste une question de sécurité. Peut-être trop tôt aussi pour lui rendre hommage dans une marche demain. C'est aussi ce que vous dites, du coup,
exactement,
Thomas Dossus.
Exactement. C'est ce que je vous ai dit au début. On doit revenir à la sérénité, au calme, pour que les enquêteurs puissent avancer, pour que la vérité, toute la vérité soit faite.
Mais alors très bien. J'appelle nos auditeurs à réagir s'ils le souhaitent évidemment au 32-16 ce matin. Est-ce qu'il faut que la préfecture interdise cette marche demain? Est-ce qu'il faut qu'elle puisse se maintenir au contraire? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop sensible aussi? Vous êtes lyonnais, on vous attend au 32-16 ce matin. Thomas Dossus, sénateur écologiste du Rhône. Merci beaucoup. Décision attendue de la préfecture dans la journée. Je précise que vous avez signé cette lettre avec une députée socialiste. À 7h50, le débat RMC avec la voix de gauche Cécile Duflot et la voix de droite Charles Consigny. D'ici là, c'est vous au 32-16 qui animez ce débat. Il est 7h19, très bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
C'est une bonne nouvelle, la France reste championne du monde du tourisme.
Eh oui, 102 millions de visiteurs en France l'an dernier, hein. Une performance, mais entre nous on a l'habitude. puisque ça fait deux siècles que la France et passionne les touristes du monde entier.
Et puis Arnaud Demange qui pirate le face-à-face, l'invité de Marie Chantrey ce matin, c'est l'avocat spécialiste des questions de sécurité. Thibaut de Montbrial, ne bougez pas, on se retrouve dans 55 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC. Quand l'histoire éclaire notre actualité avec vous, Arthur Chevalier, cocorico. Arthur, la et France reste la première destination touristique au monde, c'est ce qu'a annoncé hier le ministère du Tourisme.
Et oui, avec un record de fréquentation en 2025, 102 millions de visiteurs internationaux se sont rendus en France, c'est-à-dire 2 millions de plus qu'en 2024. Putain, et ils ont beaucoup dépensé, hein, puisque les recettes touristiques atteignent 77,5 milliards d'euros, c'est-à-dire plus 9% en un an. Alors attention quand même, hein, nous sommes talonnés par l'Espagne, deuxième du classement, avec 97 millions de visiteurs.
Ah, ça fait longtemps que la France attire le monde entier.
Ah bah oui, ça a commencé il y a plus de deux siècles. Et d'ailleurs Mathieu, est-ce que vous savez d'où vient le mot « touriste » ?
Pas du tout.
Alors, d'ailleurs, c'est un anglicisme, hein, du mot anglais « touriste ». Mais avant ça, ça vient du grand tour. Grand tour, tour, touriste. Alors qu'est-ce que c'est le grand tour ? Le grand tour, c'était une mode de la fin du XVIIIe siècle. Avant d'entrer dans l'âge adulte, les jeunes gens de bonne famille faisaient le tour des capitales européennes pour découvrir les arts et la culture de leurs voisins. C'était la naissance du tourisme moderne, si vous préférez, mais réservé aux riches. Et dans ce grand tour, Paris était l'étape la plus importante.
Alors, qui étaient les premiers touristes à venir chez nous ?
Alors, pour l'écrasante majorité, c'était des Anglais. Hein, et ils ne se contentaient pas de visiter les Anglais, puisqu'ils vont participer très concrètement au développement du tourisme. Et ça va commencer dans le sud de la France, au 19e siècle. Prenez la ville de Cannes. Au début des années 1830, un Anglais qui s'appelait Lord Burgham se rendait en Italie en passant par la France, sauf qu'il n'arrive pas à passer la frontière. Donc il décide de faire étape à côté, dans un petit village de pêcheurs, un peu paumé. Ce village, c'est Cannes. À l'époque, Cannes, c'était pas grand-chose.
Mais il va tomber amoureux de la ville.
Totalement amoureux, hein, à tel point qu'il va se faire construire une villa. Cette villa, d'ailleurs, elle existe toujours à Cannes. Hein. Et au fil des ans, il va y inviter tous ses copains aristocrates anglais. Petit à petit, Cannes devient donc the place to be des Anglais pour passer l'hiver. Hein. Il faisait beau, chaud. Tout ça au bord de la mer, c'était donc l'idéal. Voilà comment cette ville est devenue une destination légendaire de la Riviera.
Alors Paris doit aussi quelque chose à un Anglais ?
Absolument, cet Anglais c'est Thomas Cook. Et Thomas Cook c'est l'inventeur des agences de voyage. Hein. Exactement, en 1855, Paris accueille l'exposition universelle. Thomas Cook en profite pour monter les premiers voyages organisés pour visiter cette exposition. Le succès est au rendez-vous. Mais il va faire encore plus fort cet Anglais. En 1870, plusieurs monuments iconiques de Paris vont brûler pendant les affrontements de la Commune. Ni une ni deux, Thomas Cook organise des séjours pour visiter les ruines. Donc là, des milliers d'Anglais débarquent à Paris. Et le grand jeu, c'était de repartir avec une relique des incendies. Donc les Anglais prenaient une pierre, un petit débris et hop, retournaient en Angleterre. Ça va devenir un business florissant et faire de Paris l'attraction numéro un en Europe. Donc vous voyez Mathieu, même quand elle est au plus bas, la France attire le monde entier.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et on réécoute toutes vos chroniques quand on le veut, tranquillement, tout le week-end, avec l'application RMC en podcast. Merci Arthur, il est 7h24.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Ah, il est là, Arnaud. Bonjour. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, Marie Chantrey reçoit l'avocat Thibaut de Montbrial.
Allez, rebelote. Voilà, démerde-toi le comique. Le sujet de ce matin, c'est encore la mort de Quentin Derenque. Alors vas-y l'humoriste, fais bien rigoler. Vas-y, va faire des blagues sur LFI, tu verras comme c'est des gens rigolos. Et va rappeler qu'au RN aussi, il y a des gens violents. Tu vas voir à quel point ils sont pacifistes et contre la violence. D'ailleurs, je vous préviens les potes, hein. Ne riez pas là pendant 2 minutes et demie, parce qu'après on sait comment ça se passe. L'extrait, il est partagé sur des comptes Twitter d'insoumis et d'extrême droite. Tata tronche en 4K, grand sourire avec un bandeau. Mathieu Béliard, hilar sur la mort du jeune Quentin. 16 000 partages, ta carrière est foutue. Donc moi je suis obligé de trouver des blagues, mais bien vues. Pas drôle, pas trop, en tout cas. C'est dommage parce que des gens qui savent faire ça, il y en a plein France Inter, mais on peut pas les faire venir. On peut pas les faire venir juste pour aujourd'hui. Donc je suis dans une position. Si tu fais pas de blagues, tu manques de courage. Si tu fais des blagues, tu manques d'élégance. Génial. Il reste encore combien de temps de chronique, là? 1 minute 30, merde. 1 minute 30 selon RMC. 15 secondes de chronique qui reste selon mon agent qui est dans le couloir, qui sue à grosses gouttes en me disant « Sors, ça vaut pas le coup, sors, exactement. » Bref, Thibaut de Montbrial donc est notre invité. Pour lui, la brutalisation de la vie politique vient de la France insoumise, ce qui est une vision assez partisane. Je veux dire, ok, LFI a fait rentrer Raphaël Arnaud à l'Assemblée, enfin le RN y a fait rentrer Frédéric Boccaletti, condamné pour violence avec armes, et n'oublions pas les dangereuses milices giscardiennes qui terrorisèrent les salles municipales des années 70. « Hé les gars,
Oh non, Béthier, c'est fripouille de Chiracien.
Oh là là, Valérie, vous êtes vraiment un sacré fripon.
Je veux un déglingo. Je vais aller leur dire leurs quatre vérités et je n'hésiterai pas à les tutoyer.
Ça, Charbonnet, est dur. Ça rend violent la politique. Hein. C'est pas les jeux vidéo qu'il faut interdire, c'est le militantisme et Sciences Po. Il reste combien de temps là en chronique? C'est encore long, 45 secondes, merde. Alors deux assistants parlementaires LFI sont toujours en garde à vue.
Il tient.
Ben, t'imagines le recrutement LFI pour les assistants? Alors camarade, c'est quoi tes spécialités?
Moi j'ai un MBA et un diplôme de droit.
Ouf. Et toi?
Moi j'ai un MMA et un diplôme de droite, mais dans la gueule. Oh, engagé. Voilà, allez, on va dire que la chronique est finie.
Ouais,
c'était très bien. Hein, zéro seconde.
Allez, tu sors, sors.
J'ai même des applaudissements. Arnaud, allez, rendez-vous avec Thibaut de Montbrial à 8h30.
Oui, mais vous revenez quand même.
À 8h20.
Ah oui, 8h20. Restez bien dans le couloir. À tout de suite, 7h26.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
Est-ce qu'il faut simplifier l'examen du permis de conduire ou est-ce qu'on est en train de le brader? On vous pose la question, on essaye d'y répondre juste après le journal de 7h30. À tout de suite. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et on retrouve Clara Gabillet pour un nouveau journal. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La chute d'un prince après de longues années de polémiques au Royaume-Uni. L'ex-prince Andrew, placé en garde à vue hier pour ses liens avec Jeffrey Epstein. Cet homme mis en examen dans l'enquête sur la mort de Quentin de Ranc, dont un assistant du député insoumis Raphaël Arnaud. LFI pas encore écarté des alliances pour les municipales. Et puis après un stage de préparation au soleil, les Français du ski cross prêts à démarrer leurs Jeux Olympiques.
Un visage à la une de la presse britannique ce matin.
Celui de l'ex-prince Andrew, l'air complètement hagard dans sa voiture à la sortie du commissariat, relâché après avoir été arrêté hier à son domicile pour faute dans l'exercice de fonctions officielles, accusé d'avoir transmis des informations confidentielles au criminel sexuel Jeffrey Epstein. Arrestation qui a fait largement réagir dans le pays, Célestin Bougère.
Dans les rues de Londres, cette arrestation est dans toutes les discussions.
Je ne pensais pas qu'il serait arrêté. Je me disais qu'il ne serait pas inquiété, mais je suis ravi.
J'espère qu'il aura ce qu'il mérite. S'il mérite d'être en prison à vie, alors il doit recevoir cette peine.
C'est un symbole du monde dans lequel on vit, où les puissants n'ont aucune éthique et se croient au-dessus des lois. Andrew Mountbatten-Windsor avait déjà été déchu de ses titres royaux en 2019 après les accusations d'agression sexuelle d'une Américaine mineure au moment des faits. Cette fois, il est soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels à Jeffrey Epstein. Son arrestation a un retentissement inédit au Royaume-Uni pour Alexander Seal, journaliste franco-britannique.
C'est très nouveau et ça secoue vraiment les autorités et les médias britanniques. Mais juridiquement, Andrew est aujourd'hui un citoyen comme les autres. Il n'exerce plus de fonctions officielles et ne bénéficie d'aucune immunité particulière.
Le roi Charles III, le frère d'Andrew, a réagi en affirmant que la justice devait suivre son cours. C'est la première fois depuis 1649 qu'un membre de la famille royale britannique est arrêté par la police.
Ils ont entre 20 et 26 ans. Sept hommes désormais mis en examen dans l'enquête sur la mort de Quentin de Ranc, militant nationaliste roué de coups à Lyon. Six d'entre eux pour homicide volontaire. L'assistant du député insoumis Raphaël Arnaud, lui pour violence et complicité de meurtre par instigation. Il a passé la nuit en prison, ce qui pousse un peu plus la France insoumise dans la tempête. Et pourtant, Cyprien Pezeril, service politique d'RMC, les socialistes et les écologistes ne ferment pas la porte à un accord pour les municipales.
Oui, il y a les mots durs à l'encontre de LFI. Ils participent à la hooliganisation de la vie politique. Cingle par exemple auprès de RMC Olivier Faure à la tête du PS. Mais dans les faits, les socialistes et les écologistes ne coupent pas définitivement les ponts avec Jean-Luc Mélenchon et ses troupes. À ce stade, aucune interdiction de frayer avec eux au second tour des municipales. Un principe de réalité électorale domine. Lyon, Toulouse ou encore Limoges, exemple de ces villes où un accord avec les insoumis paraît nécessaire pour que la gauche l'emporte. Et c'est au soir du premier tour que la cuisine et les tractations décisives se feront. Un intime du patron du PS le concède. Même sans alliance, on aura besoin des voix de LFI, avec l'espoir pour certains que d'ici là, les insoumis finissent tout de même par se désolidariser de la jeune garde.
Et une marche est prévue demain après-midi à Lyon en hommage à Quentin de Ranc. Le maire Grégory Doucet demande au préfet de l'interdire au vu des risques de débordement.
Oui, c'est ce que demandait aussi le sénateur écolo du Rhône, une députée socialiste aussi. Dites-nous, est-ce que, franchement, vous êtes lyonnais, je pense aux commerçants lyonnais du centre-ville notamment, mais les citoyens lyonnais tout court, est-ce qu'il faut que la préfecture interdise ce rassemblement ou non? 32-16 et vous serez en direct avec nous.
La vigilance baisse d'un cran pour les crues dans le Lot-et-Garonne et la Gironde, rétrogradées en orange. Il y a maintenant 3 départements en vigilance maximale, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime, des inondations qui s'éternisent avec de lourds dégâts pour beaucoup d'habitants évacués de chez eux. Pour tous les sinistrés, Sébastien Lecornu promet une indemnisation au plus vite. Certains assureurs ont déjà pris les devants à Langon, en Gironde. Une unité mobile s'est installée. Le reportage d'Inès Zegloul avec Pierre Bourgès.
Des camions aménagés en bureaux garés à la va-vite sur un parking de la commune.
Ça, c'est le numéro.
Et des rendez-vous qui s'enchaînent.
Du coup, j'ai envoyé un message à l'expert pour lui expliquer voilà, que vous avez été relogé.
Constater les sinistres, évaluer les dommages, engager les premiers frais d'urgence pour ceux qui ont été sauvés in extremis de la montée des eaux.
Je viens de faire un règlement de 2000 euros en acompte sur le RIP de votre maman.
Ok,
d'accord, qui aura sous quelques jours.
Parce qu'avec ses pathologies, etc.
Karen soupire de soulagement, gorge serrée.
Signaler un sinistre par téléphone, c'est pas pareil en fait. Quand on est confronté à ce type de situation, honnêtement, d'avoir quelqu'un de visu, c'est nettement mieux quoi.
Michel, agent assureur, hoche la tête.
Ils peuvent être assez choqués et paniqués. On est face à des événements traumatisants.
Alors, à situation exceptionnelle, dit-il, dispositif exceptionnel.
Les délais de déclaration qui sont allongés à 30 jours, ce qui permet aux clients de plus gérer l'urgence aussi qu'ils ont dans leur vie quotidienne. Les gens ont besoin, je pense, d'être rassurés et d'avoir de l'humain en face.
L'unité mobile restera sur place jusqu'à demain avant de prendre la direction d'Angers, du Maine-et-Loire, secteur toujours en alerte.
Le rappeur Naps, condamné à 7 ans de prison pour viol, pour avoir violé une jeune femme de 21 ans dans son sommeil dans une chambre d'hôtel parisienne en 2021. Le rappeur marseillais a passé la nuit en prison. Il annonce faire appel. Il jouait le chirurgien Mark Sloan dans la série culte Grey's Anatomy. Eric Dane est mort à 53 ans. L'acteur américain souffrait d'une maladie neurologique.
Il est 7h35 sur RMC. Direction l'Italie pour les Jeux.
RMC. Radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Avec Clara, le début des épreuves de ski cross.
Oui, c'est à 10h avec des Français en lice et ils ont fait dans l'originalité pour se préparer un stage, pas à la montagne, mais à la mer, Morgane Maury.
Appelez-les, les bronzés font du ski cross. Une idée originale de l'entraîneur Michel Lucatelli. Au lieu de tourner en rond dans le village olympique à attendre une course, direction le soleil des Canaries en plein hiver, Evan Kluft.
On regardait les courses, nous on a vécu ça entre à la sieste, les pieds dans le sable, en train de sous un petit parasol, donc c'est vrai que c'était différent niveau pression.
Sur Instagram, les garçons publient des photos en maillot de bain avec la mention Livigno, le site des JO, à la mer, mais pas en vacances, pas de ski, de la préparation physique à haute dose et des moments collectifs. Terrain chic Navorian.
Comme vous avez plutôt dit, le staff, c'est pas un ou deux jours de ski en plus qui vous feront progresser. Là où on va gagner, c'est sur de la fraîcheur et de l'envie d'aller manger les autres, quoi.
Cette mise au vert originale avait fonctionné il y a 12 ans, année du triplé français en ski cross au JO de Sochi.
Au programme aussi du biathlon, nouvelle chance de médaille pour la France aujourd'hui avec la mass start chez les hommes. C'est à 14h15 hier, 2 médailles, un français supplémentaire, de l'argent et du bronze sur la nouvelle discipline des Jeux, le ski alpinisme. Et puis le retour de la Ligue 1 ce soir avec le premier défi d'Habib Bey à Marseille. Premier match pour l'entraîneur. L'OM se déplace à Brest. Coup d'envoi 20h45.
Et le quintet, on est vendredi, c'est en nocturne à Vincennes.
Oui, la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 4, Imaco Verderie. L'outsider, c'est le numéro 14, Job du Persil, le 4 et le 14.
Merci beaucoup Clara Gabillet, c'était le journal. Victor Pourchet, vous surveillez le WhatsApp RMC, le 06 12 424 424, et c'est la marche, le rassemblement prévu en hommage à Quentin qui fait réagir sur le WhatsApp ce matin.
Et d'abord Xander qui nous dit oui, on interdit cette marche, mais il faudrait interdire surtout les contre-manifestations. Chacun peut manifester et à des jours différents. Et puis Julien nous dit même les parents de Quentin ne soutiennent pas cette marche. C'est la preuve que ce serait un défilé des extrêmes.
Bon, vous continuez à réagir, à nous appeler aussi au 32-16 et le débat RMC avec Charles Consigné et Cécile Duflot dans 10 minutes. Il est 7h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Simplifier l'examen du permis de conduire. La sécurité routière y réfléchit. Un stop glissé, un changement de voie sans regarder, cela pourrait ne plus être éliminatoire. Bonjour Philippe Destarquette.
Bonjour.
Vous êtes le représentant des inspecteurs du permis de conduire et vous nous expliquez dans un instant pourquoi cette évolution vous inquiète. Franchement, ne bougez pas, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h42 sur RMC et RMC Story. Les erreurs éliminatoires du permis de conduire, certaines bientôt supprimées. La sécurité routière y travaille sur la base d'une directive européenne. Alors cette question, ce matin, faut-il simplifier l'examen du permis de conduire ? Bonjour Philippe Destarquette.
Oui, bonjour.
Vous êtes le représentant des inspecteurs du permis de conduire. Alors ne pas marquer totalement l'arrêt à un stop. Changer de voie sans contrôler s'il n'y a aucun danger. Ce ne seront plus des fautes éliminatoires, on le disait. Ça vous inquiète, les écoles, les inspecteurs. Mais quand on voit le temps d'attente pour passer le permis, le taux de réussite à seulement 55%, faut pas fluidifier tout ça ?
Alors, si vous voulez, c'est deux choses bien différentes. Déjà, sur le plan de, faut se poser la question sur le plan de la sécurité routière. Est-ce que c'est légitime d'aller vers une simplification de l'examen ? Évidemment, nous ne le pensons pas. Je ne suis pas sûr que, voilà, les citoyens voudraient rouler avec des néo-conducteurs qui changent de voie sans rien regarder ou qui ne s'occupent pas des stops, pour reprendre les exemples que vous avez pris. Donc, il faut pas tout mélanger. Il y a ce problème d'exigence que nous partageons tout à fait avec les auto-écoles. Tout le monde a besoin de savoir pourquoi on travaille et comment on travaille. Ça serait un message extrêmement compliqué à porter auprès de la jeunesse et auprès du pays que d'avoir encore une dégradation du niveau.
Je me faisais la réflexion, quand on passe le permis de conduire, en général on a autour de 18 ans, le jour où on reçoit la carte rose, on peut pas dire qu'on sait conduire, l'apprentissage y continue. Il s'agit pas de changer la règle, mais de faire qu'elle soit plus éliminatoire. C'est si choquant.
Ah ben oui, c'est très choquant. Je pense que en fait là on parle de roulette russe. Quasiment.
Roulette russe.
Oui, mais bien sûr. Si vous enlevez là tel que c'est défini, tel que le projet se dessine, il s'agit en fait de valider une situation et au motif qu'il n'y avait personne, ça passerait. C'est juste pas possible. J'ajoute que vous évoquiez tout à l'heure des difficultés à passer l'examen. Alors le taux de réussite, il est entre 55 et 60
%. Oui.
C'est un taux qui ne varie pas depuis des lustres. Quoi qu'on ait fait. Voilà, c'est ce taux-là qui toujours est présent dans notre pays. Donc ça c'est un premier sujet.
Non mais parce que j'entendais par exemple Philippe Destarquette, Victor Prochet, vous me citiez un message d'un auditeur qui comparait avec le baccalauréat.
Oui, c'est ça, la plupart nous disent c'est un peu comme le baccalauréat ou la lecture. On a baissé les critères au fur et à mesure pour le rendre plus accessible. Finalement les résultats sont en baisse et beaucoup craignent sur le WhatsApp de l'émission que ça fasse pareil avec le permis, on baisse les exigences et du coup le niveau baisse avec.
Sauf qu'on n'a pas 55% de réussite au bac, Philippe Destarquette.
Non, mais alors déjà, tout le monde ne passe pas le bac. Il y a déjà un premier écrémage, si je puis dire, au fur et à mesure du collège et du parcours scolaire. Et j'ajouterais aussi que au bout des 55 à 60% de réussite, vous avez la sécurité routière au bout, avec des morts. Excusez-moi. Mais il s'agit quand même de ça. Tandis que les résultats du bac, pour autant qu'ils sont importants pour la personne,
l'enjeu n'est pas le même, dites-vous, Philippe.
L'enjeu n'est pas le même.
Il y en a Julie, qui est une collègue à vous, si je puis me permettre, Julie, qui est à Créteil, dans le Val-de-Marne. Bonjour, Julie.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes en direct. Justement, avec Philippe Destarquette, cette question du permis, c'est vous les professionnels. Hein. Vous dites, on va mettre quoi ? On va mettre les automobilistes, les piétons d'ailleurs aussi, en danger ?
Bah, oui, moi je trouve ça, comme monsieur l'a dit, je trouve ça aberrant. Vous vous rendez compte que on va mettre des personnes sur la route, des mineurs qui ont 17 ans maintenant pour certains, sur la route. Alors, on contrôle pas, on fait un changement de voie, ça va être à vous qui avez le permis et qui êtes plus expérimenté de faire attention à lui. Il fait un changement de voie, il ne contrôle pas. Lors d'un examen du permis de conduire, c'est nous qui assurons la sécurité en regardant avant qu'il fasse son changement de voie.
Bien sûr.
Donc c'est nous qui assurons la sécurité.
Oui,
si
donc
il ne fait pas.
Oui, si lui il ne regarde pas. Oui, parce qu'en fait, on se posait cette question, Julie, et je la pose aussi à Philippe Destarquette. Vous allez répondre tous les deux rapidement. Changer de voie sans contrôler s'il n'y a aucun danger. Comment on sait qu'il n'y a aucun danger, Julie ?
Bah, on sait qu'il n'y a aucun danger parce que nous, on a regardé.
Oui, donc quelqu'un a regardé quand même, Philippe Destarquette.
Quelqu'un a regardé, sauf que quand on va délivrer le permis, il sera tout seul.
Oui.
Et donc, il n'y aura plus ce quelqu'un pour regarder.
Ah oui, mais ça c'est la partie. Voilà. Je dois dire que j'ai pas très bien compris comment on pouvait mettre ça en place. Pour vous, Philippe Destarquette, pour le dire simplement, on essaie de pallier le manque d'inspecteurs en assouplissant les règles du jeu.
Tout à fait. C'est ce que j'allais y venir. C'est effectivement un prétexte pour gratter quelques points de réussite. Tout ça pour ne pas recruter les 150 inspecteurs qui manquent au compteur, pour fluidifier, justement, pour reprendre votre vocabulaire d'il y a 5 minutes, pour fluidifier la filière. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté de la filière, elle est pas dans le niveau de l'examen, elle est uniquement dans le fait qu'un jeune qui rate son permis va s'enliser dans la filière parce qu'il n'a pas de date possible pour repasser et donc il va dépenser beaucoup d'argent pour maintenir
son
niveau.
Les résultats et le taux de réussite. Merci Philippe Destarquette, secrétaire général du SNICA FO, le syndicat des inspecteurs du permis de conduire, et merci à Julie aussi qui nous a appelé depuis le Val-de-Marne ce matin 7h47. Vous réagissez si vous le souhaitez, dites-nous ce que vous en pensez au 3216 ou sur le WhatsApp RMC. Dans un instant, le débat RMC. Faut-il interdire la marche organisée demain à Lyon en hommage à Quentin Derenque, le militant d'extrême droite tué la semaine dernière? Et tiens, Jean-Michel Aulas, le candidat de la droite à la mairie de Lyon, qui veut afficher le portrait de Quentin Derenque sur la mairie de Lyon. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes la voix de gauche ce matin. Bonjour Charles Consigny.
Bonjour Mathieu.
Notre voix de droite, vous n'êtes pas du même avis. On vous écoute dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Et ce matin, le débat RMC, c'est avec vous, Charles Consigny, voix de droite. Bonjour Charles.
Bonjour Nico, bonjour.
Mathieu. Et rebonjour.
Pardon Mathieu, c'est parce que j'avais Nicolas juste à l'instant.
Notre rédacteur en chef qui nous parle à tous dans l'oreillette. On entend des voix. Cécile Duflo, vous entendez des voix aussi?
Je suis tout jeune.
Ça va, celle de Charles du coup. Hein.
Bonjour Cécile. On est à la veille d'un week-end sous très haute tension. À Lyon, avec une marche organisée demain en hommage à Quentin Derenque, militant d'extrême droite, lynché en pleine rue, décédé samedi. Une marche à laquelle, par ailleurs, ne participera pas sa famille. Est-ce qu'il fallait interdire cette marche à Lyon? Les autres rassemblements, par ailleurs, s'il y en aura d'autres en France, mais à Lyon, la gauche le demande pour des raisons de sécurité. Cécile?
Moi, par principe, je suis pas vraiment pour qu'on interdise les manifestations. Mais là, il faut bien se rendre compte que le risque d'affrontement, il est réel sur une situation qui est extrêmement tendue. Donc, y compris si la famille dit qu'elle n'y participera pas, qu'elle ne veut pas de récupération, je pense que la désescalade, c'est la bonne méthode dans la période.
Charles, on avait aussi un sénateur du Rhône tout à l'heure qui nous disait qu'il craignait de voir arriver des militants venus d'autres pays d'Europe. On va avoir des scènes de bagarre si on organise cette marche à Lyon?
Je pense qu'il est de la responsabilité de l'État de sécuriser cette marche et je trouve insensé que certains osent demander qu'elle soit interdite. Je pense que ça montre jusqu'au bout l'incroyable intolérance intellectuelle et politique de la gauche qui, même après la mort de quelqu'un, ne prend pas sur elle pour supporter que 1500... personne, 2000, combien sais-je, qui soutiennent ce jeune homme, manifestent dans les rues de Lyon pour lui rendre hommage. Je trouve ça dingue. Je trouve dingue que l'ultra-gauche ait déjà annoncé qu'elle envoyait 1500 personnes, c'est-à-dire qu'elle assume le fait qu'elle a tué et qu'elle a tué consciemment, qu'elle a tué en sachant ce qu'elle faisait, qu'elle assume et qu'elle poursuit dans son projet. Et je trouve ça hallucinant que Grégory Doucet, le maire sortant et à mon avis pas reconduit de Lyon, et la députée socialiste locale s'associe à cette demande d'interdiction. Je pense que,
à l'instant,
en mémoire de ce jeune homme, ça doit être autorisé.
À l'instant, Charles, Cécile, Laurent Nunez vient de dire qu'il ne demandera pas l'interdiction de cette marche. C'est une erreur, Cécile?
Bah écoutez, on verra bien le résultat. Justement, en écoutant Charles, je me dis que là, il y a un problème, c'est qu'il y a une grosse instrumentalisation généralisée dans tous les sens. J'en parlais d'ailleurs hier, c'est-à-dire qu'on a vu des ministres qui sont allés plus vite que la musique, avant l'enquête, chacun qui met dans cette histoire des orientations politiques. Il y a eu un drame catastrophique, parce qu'on peut jamais accepter qu'un militant même d'idées dont on partage rien du tout soit tué, et encore plus de cette manière, c'est-à-dire pas par accident, avec des coups dans la tête. Donc là-dessus, il n'y a aucun débat. Le sujet, c'est, je le redis, c'est pas d'instrumentalisation politique dans tous les sens. Et dans ce que j'entends de ce que dit Charles, il rajoute le maire sortant pas reconduit, le candidat qui lui dit qu'il faut afficher son portrait. Est-ce qu'on peut remettre du calme, laisser l'enquête se faire baisser le niveau de conflictualité, et ensuite qu'il y ait eu des manifestations interdites? Charles, je suis sûre que si on cherche un peu, on va trouver des moments où vous avez demandé l'interdiction de manifestation parce que ça provoquait un risque. On va regarder.
Jamais,
hein.
Charles, attention.
Jamais.
Je voudrais juste, Charles, rebondir sur ce que vient de dire Cécile, et parce que vous évoquiez Grégory Doucet, c'est Jean-Michel Aulas hein, qui est candidat, d'ailleurs en tête dans les sondages, hein, qui demande à ce que la mairie de Lyon mette le portrait de Quentin Derenque sur le fronton de la mairie. J'appelle solennellement le maire à afficher le portrait par ce symbole. Lyon n'honorera pas seulement la mémoire d'un de ses fils, elle marquera son refus implacable de la violence et de la haine. Charles?
Mais oui, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison et je pense que ceux qui ont pointé ces derniers jours l'appartenance de ce jeune Quentin à je ne sais quel groupuscule facho pour essayer mezzavocé de relativiser le crime, je pense qu'ils sont dans l'erreur absolue. Pour moi, on est dans un temps de deuil, de recueillement, de pénitence pour ceux qui sont co-responsables de ce crime. Et je suis désolé, chère Cécile, mais pour moi, le crime, il est quasiment revendiqué par les Antifa. Et d'ailleurs, les interpellations ont été extrêmement rapides. Les gens ont été tout à fait rapidement identifiés. Vous en avez déjà 7 qui vont aller en détention provisoire. Je crois qu'il y a 2 collaborateurs de Raphaël Arnaud dans le lot. On va pas essayer de nous faire croire que qui que ce soit d'autre que les Antifa ont commis ce crime, quand bien même l'instruction prendrait, comme c'est d'usage en France, 4 ou 5 ans. Je veux dire, on sait quel est le mobile politique derrière ce crime. Et pour moi, je le redis comme je le pense, je pense que toute la gauche doit faire pénitence, parce que je pense que le fascisme est à gauche aujourd'hui. Je pense que l'intolérance est à gauche aujourd'hui. Non, mais le dogmatisme est à gauche aujourd'hui. Je terminerai juste par là. J'ai retweeté un tweet de Madame Tondelier qui, quand Bruno Retailleau a dissous la Jeune Garde, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a tweeté en hurlant au fascisme et en apportant son soutien à la Jeune Garde. Madame Tondelier, c'est l'écologie sympathique, la veste verte, tout le monde
Charles,
est beau, tout le monde est gentil.
Puisse répondre.
C'est ça le visage de la gauche d'aujourd'hui. Elle doit faire son autocritique.
Alors, moi, j'ai aucune ni patience ni complaisance avec ceux qui prônent la violence comme outil politique, parce que la violence n'engendre que la violence. Et quand je dis qu'il faut que l'enquête aille jusqu'au bout, c'est pas 5 ans d'instruction, c'est qu'effectivement, on est en train de voir, et y compris d'ailleurs, ça posera un certain nombre de questions, des proximités. Mais les proximités de l'extrême droite et d'autres gens à Lyon, elles ont été réelles et elles ont causé beaucoup de violence. Donc expliquer que le fascisme est de gauche, le vert c'est rouge, le rouge c'est bleu et le bleu c'est orange, en fait ça sert pas le sujet. Aujourd'hui, il y a quand même dans notre pays un certain nombre d'organisations d'extrême droite qui ont promu la violence, qui ont eu des actes violents, qui ont tué des gens, c'est une réalité. Et donc ça ne justifie rien du tout. Et ça ne justifie pas d'ailleurs d'engendrer de la violence, y compris contre ces groupes. Je pense qu'il faut répondre par la justice, qu'il faut répondre par le droit. Mais de dire aussi par exemple qu'à Lyon, il y a eu un écosystème et une proximité avec certains groupes de supporters, avec des lieux partagés, avec des propos racistes, nazis qui ont été redits, des saluts nazis qui ont été faits, y compris dans les stades. C'est une réalité. C'est une réalité.
Charles, et donc, un dernier mot, Charles, pour terminer.
C'est groupusculaire, c'est 3 personnes. Pour moi,
c'est pas 3 personnes, justement.
La très grosse vague de haine en ce moment, la haine des Blancs, la haine des catholiques, la haine de la France, la haine des traditions occidentales, la haine des riches, la haine de tout un chacun, elle vient de la gauche aujourd'hui. C'est la gauche qui n'a à la bouche que des interdictions, des répressions, le vol du travail des gens par des fiscalités délirantes, l'entrave à la liberté d'aller venir.
Et comme on sort du sujet, c'est plus facile. Charles, comme on sort du sujet, c'est plus facile de couper pour moi. En l'occurrence, parce qu'on est au bout du temps, Cécile Duflo, Charles Constantin.
On sort du sujet, oui, c'est ça.
À tous les deux. À 8h30, la question sera à nouveau posée. Le face-à-face sur RMC et BFM TV, c'est Marie Chantré qui reçoit l'avocat Thibaut de Montbrial. Dans un instant, le journal de 8h, on sera en direct du Maine-et-Loire. Toujours en alerte rouge, le niveau de la Loire doit repartir à la hausse dans la journée, même si sur le front météo, vous allez l'entendre avec Géraldine Demory, ça se calme aujourd'hui, un peu de calme. 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. 20 cm de plus autour d'Angers. L'eau qui monte encore à Saintes. Vous verrez dans ce journal que l'Ouest n'en a toujours pas fini avec les inondations. L'info du matin, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui ne demandera pas l'interdiction de la manifestation de demain prévue à Lyon, une semaine après la mort de Quentin et au lendemain de la mise en examen des 7 suspects hier soir dans cette affaire. Et puis on va retourner en Italie aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques d'hiver, où on va revoir, tiens, aujourd'hui les Français du biathlon qui cartonnent et qui ont déjà remporté 10 médailles.
Il y a du mieux ce matin, mais l'Ouest est loin d'en avoir terminé avec les inondations.
Oui, alors c'est au bord de la Garonne que ça va mieux, un peu mieux ce matin. La Gironde et Lot-et-Garonne sont sortis de l'alerte rouge. L'eau redescend enfin dans les villes de Marmande et de La Réole, même si on reste à des niveaux très élevés, à deux fois plus élevés que d'habitude. Mais l'eau continue de monter plus au nord. Le niveau de la Charente va encore monter de quelques centimètres aujourd'hui dans la ville de Saintes. Et on attend même une vingtaine de centimètres en plus dans le secteur d'Angers, où ça n'en finit plus, nous dit le correspondant d'RMC Martin Lange.
Depuis le début de la semaine, le garage de Jean-Michel est inondé. Habitant des bords de Loire depuis 25 ans, ce retraité surveille attentivement la crue et il commence à trouver le temps long.
Ça va encore monter ce week-end. Au bout d'un moment, c'est pas agréable, quoi.
Alors tous les habitants de la commune scrutent le ciel avec anxiété à l'image de Jacques, 76 ans. Il est né au pont de Cé.
Tout le monde appréhende un petit peu les deux ou trois jours qui vont venir. Si ça se stabilisait sans pluie, sans rien... Bon, c'est jouable, ça va descendre, mais s'il se remet à pleuvoir, le problème c'est la durée. Au bout d'un moment, c'est ras-le-bol.
Avec 4000 km de cours d'eau dans le département, quasiment tous en crue, le retour à la normale prendra du temps. Le maire Jean-Paul Pavillon.
On est sur un plateau avec une légère remontée parce que nous, ce qu'on surveille, c'est la Vienne.
La Vienne située en amont et qui a été placée en vigilance orange. 400 pompiers restent donc mobilisés. Le lieutenant-colonel Cyril Thomy.
On a prévenu l'ensemble de nos personnels qu'on est sur un marathon. On s'attend à avoir plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'action encore à mener. Les moyens seuls du département ne suffiront pas.
Des renforts de sapeurs-pompiers venus de départements voisins doivent arriver afin d'assurer la relève et permettre aux équipes de souffler.
Alors vous savez qu'il y a plein de cours d'eau hein, en Anjou dans le secteur d'Angers. L'ordre est carrément donné d'évacuer le village de Chef-sur-Sarthe au nord d'Angers où l'eau doit monter quand même de 50 cm d'ici à demain. Alors Géraldine le disait, hein, de l'autre côté de la France à la montagne, le risque d'avalanche reste au niveau maximal de 5/5 dans les Alpes du Nord en pleine vacances scolaires. Vacances qui commencent ce vendredi pour la zone C. Paris, Toulouse, Montpellier, la zone C qui rejoint la zone notamment des Bordelais, c'est fini bientôt pour la zone A.
Il est 8h03 sur RMC, première nuit en prison pour la plupart des suspects du meurtre de Quentin Derenck.
Oui, une semaine après la mort du militant nationaliste à Lyon, 7 suspects ont donc été mis en examen dans la soirée. Un pour complicité, il s'agit de Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud. 6 pour homicide volontaire. Julie Bro du service police-justice à RMC, vous êtes en direct ce matin de Lyon où vous suivez le déroulé de l'enquête. On a donc des détails sur les 6 mis en examen pour homicide volontaire.
Oui, 6 hommes au profil très jeune, âgés de 20 à 26 ans. L'un travaillait encore il y a quelques jours dans l'équipe du député insoumis Raphaël Arnaud. Les autres sont étudiants, employés dans le privé ou sans emploi. Tous sont issus de la mouvance ultra-gauche. Certains sont même fichés S en lien avec leurs engagements militants. Et on apprend que 2 d'entre eux étaient déjà connus de la justice. C'est le cas d'un certain Alexis C, qui est poursuivi pour une agression à caractère antisémite. Les faits remontent à 2024. Il est soupçonné cette année-là d'avoir tabassé un ado de 15 ans dans le métro parisien. Là aussi, en marge d'un meeting de Rima Hassan, il était depuis placé sous contrôle judiciaire. Ces 6 suspects sont aujourd'hui soupçonnés d'avoir porté des coups mortels à Quentin Derenck. En garde à vue, certains ont reconnu l'avoir frappé, lui ou d'autres militants d'extrême droite, mais tous contestent l'intention de tuer. Et on le rappelle, dans cette enquête qui s'annonce au long cours, il reste à ce jour plusieurs personnes à identifier, y compris des personnes qui ont pu porter des coups mortels.
Et donc à Lyon, Julie Brault, en direct pour RMC. À Lyon, le maire, Grégory Doucet, demande l'interdiction de la marche réclamant justice pour Quentin, prévue demain dans cette ville de Lyon. Pour l'heure, elle n'a ni été autorisée ni interdite par la préfecture, qui doit prendre la décision, l'annoncer en tout cas dans la journée. Mais déjà, on a un avant-goût puisque le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ne va pas demander son interdiction. Il l'annonce ce matin. Toujours est-il que le dispositif de sécurité sera renforcé pour cette occasion puisque l'ultra-gauche appelle déjà, je cite, à ne pas laisser la rue à l'ultra-droite demain. Autrement dit, Pierre Bazin du service police-justice à RMC, ce sera tout sauf une journée de manifestation dite classique.
Oui, pour les forces de l'ordre, la mission de demain sera certainement différente des opérations de maintien de l'ordre plus classiques, puisque les policiers redoutent la présence de militants d'ultra-gauche et d'ultra-droite, très mobiles et prêts à tout pour en découdre. CRS depuis 27 ans, notamment à Lyon, Olivier Cap connaît parfaitement le fonctionnement des deux mouvances.
Ces groupes-là sont organisés et entraînés. Ils viennent surtout pour s'affronter. L'enjeu de demain, ça va être d'identifier et canaliser et éviter tout regroupement trop nombreux. que ce soit d'ultra-droite ou d'ultra-gauche. Et si jamais ils devaient se rencontrer, automatiquement, il faudra disperser au plus vite, sinon ça, on sera vraiment dans l'ultra-violence.
Selon ce délégué du syndicat Unité, si ces groupuscules sont bien présents, les forces de l'ordre tenteront alors de les séparer en bloquant les ponts qui leur permettent de se retrouver.
Il faut éviter aussi que d'autres gens soient blessés, parce qu'on est samedi, donc il y aura sûrement beaucoup de familles, etc. etc. Donc c'est quand même un peu compliqué, ce genre de maintien de l'ordre, parce que ça commence à déborder.
Des moyens aériens devraient également être déployés pour mieux suivre les mouvements des manifestants.
Une des informations de la matinée, c'est le budget de l'État, enfin promulgué au journal officiel pour 2026. La quasi-totalité du texte ayant été validée hier par le Conseil constitutionnel, c'était l'ultime étape de ce marathon budgétaire semé d'embûches. L'événement des 10 prochains jours, c'est le salon de l'agriculture qui commencera demain à Paris. Ça y est, les animaux arrivent. Mais avec des ovins à la place des bovins, pas de vaches, en raison de la maladie bovine, première depuis 64. Les concours d'élevage sont remplacés par des parades avec des chevaux et des ânes. C'est pas une blague. Thomas Douéré, pour RMC, question donc qu'on se pose. Est-ce que les visiteurs iront quand même?
Oui, Anna ira avec son fils. Elle assure qu'il passera une bonne journée, même sans vache.
Vous savez, c'est des enfants. Hein. À partir du moment où on les emmène voir des animaux et faire des ateliers, ils n'ont aucun problème.
Un avis que partage Caroline, son fils a 6 ans. Elle réfléchit à l'emmener au salon pour le sensibiliser à son alimentation. Pour elle, il faut...
qu'ils sachent ce qu'ils mangent et ça fait partie de leur éducation de comprendre comment s'alimenter.
Pierre Chaline est le responsable événementiel du stand du département du Vaucluse. Ça fait 16 ans qu'il vient au salon. S'il reconnaît un saut dans l'inconnu...
C'est vrai que c'est une nouveauté, hein. On n'a jamais connu cette phase-là.
Il reste optimiste.
On a connu aussi les années Covid et pourtant le salon de l'agriculture a toujours été là. C'est toujours remis des petits coups durs. On n'est pas dans la psychose de se dire qu'il n'y aura pas de public, bien au contraire, on fait confiance.
Les organisateurs sont persuadés que l'affluence sera au rendez-vous. 600 000 personnes se sont rendues au salon de l'agriculture l'an dernier.
On va revoir du biathlon aux Jeux Olympiques.
Et du coup, on va gagner.
RMC, RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Alors, il y a Manu qui demande. Alors, Manu, c'est 10 médailles sur les 19 françaises qui viennent du biathlon sur le site d'Anter Selva où Julien Richard nous attend. On y est avec vous, Julien, en direct pour RMC. Ça y est, le biathlon, ça touche à sa fin quand même. Aujourd'hui, c'est la dernière course pour les garçons, la Mastart, qu'on présente comme l'épreuve reine, hein, c'est ça?
Oui, les 30 meilleurs biathlètes de la planète qui s'élancent ensemble pour 15 km et 4 tirs. C'est une course spectaculaire et les Bleus veulent enfoncer le clou. C'était le discours hier soir de l'entraîneur Simon Fourcade pour ce groupe masculin qui a déjà plus que réussi ses jeux, hein, mais qui a encore un tas de raisons de performer sur cette Mastart avec Emilien Jacquelin, supersonique dans le relais mardi, Eric Perrault, le numéro 1 mondial, titré 2 fois en équipe ici, mais qui rêve toujours d'or en individuel, et puis Quentin Fillon-Maillet et ses 3 victoires à Antols-Anterselva avec un objectif fou dans le viseur du Jurassien, égaler le nombre de titres de Martin Fourcade, ce serait le 6e de sa carrière, et devenir le premier de l'histoire à avoir gagné toutes les courses du biathlon aux Jeux Olympiques.
Julien Richard pour RMC, ça touche à sa fin les JO sur RMC Radio Officielle.
Je vous sens presque déjà un peu nostalgique, Quentin Vinet.
Bah oui, j'ai pas hâte de la cérémonie de clôture. Hein.
Bon, Julien Richard, profitez-en, la Mastart aujourd'hui, merci beaucoup. Vous restez bien sur RMC, il est 8h09.
RMC, Apolline Matin.
Le Chypre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre pour l'économie. On va parler droit de douane ce matin. Les spectaculaires hausses de taxes douanières décidées par Donald Trump, Manu, n'ont servi à rien.
Mais non, rappelez-vous du fameux Liberation Day, vous savez, ce jour où Donald Trump a brandi un tableau avec les hausses de taxes douanières prévues pour chaque pays, qui se retrouvaient quand même multipliées par 5. On se disait, oh là là, c'est le début d'une guerre commerciale mondiale. Eh bien, cette guerre n'a pas eu lieu. Le but initial de Donald Trump, hein, Make America Great Again, ça voulait dire, on va produire américain, on va acheter américain, et donc, on va réduire notre déficit commercial. Eh bien, figurez-vous qu'on a eu les chiffres hier, ce déficit commercial n'a jamais été aussi important. Il a atteint 1240 milliards de dollars en 2025, et même avec l'Europe, les États-Unis ont enregistré un déficit plus important encore qu'en 2024.
Alors les droits de douane américains n'ont pas non plus ralenti le commerce mondial, comme on a pu le craindre.
Ah ben figurez-vous qu'il a augmenté au-delà de toutes les prévisions. Alors attention, ça ne veut pas dire que les taxes Trump n'ont eu aucun effet sur les échanges internationaux, mais au contraire, ces échanges se sont très vite réorientés. Les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté, tout comme les exportations des États-Unis et de l'Europe vers la Chine. Mais en revanche, le commerce entre pays européens a connu un vrai boom. Les États-Unis se sont tournés vers les autres pays asiatiques que la Chine. Et puis, le plus spectaculaire, c'est que pour contrebalancer tous ces droits de douane, jamais autant d'accords commerciaux visant à baisser ses droits de douane n'ont été signés dans le monde qu'en 2025. Regardez, juste à l'échelle de l'Europe, le Mercosur, l'Indonésie, l'Inde ont été nos nouveaux partenaires. C'est quand même assez spectaculaire.
Mais Emmanuel, le Chypre, il y a quand même des perdants à cette hausse des taxes Trump.
Alors, c'est vrai qu'il y a certains secteurs exportateurs européens qui ont été quand même affectés. On pense aux vins et spiritueux français, par exemple. Mais regardez ce que vous disiez tous les producteurs au grand salon mondial du business du vin à Wine Paris, c'était il y a 10 jours. Ils vous disaient, ok, les États-Unis c'est plus dur. Mais attendez, là, on vend comme jamais au Brésil, on vend comme jamais en Inde. Donc, oui, il y a d'autres débouchés qui se dessinent. Et puis, le grand perdant, c'est évidemment le consommateur américain. Il y a une note des économistes de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale, c'est la banque centrale américaine, avec des économistes au-dessus de tout soupçon, qui nous disent, et indépendante, la banque centrale américaine, qui nous dit...
Et entre vous, experts, vous dites la Fed.
Oui, on dit ouais, la Fed. Ouais, on dit c'est ça. Et la Fed montre que le consommateur américain paye la quasi-totalité de la facture des droits de douane. Vous savez ce que répond l'administration Trump quand même via Kevin Hassett, qui est le chef économiste de la Maison Blanche. Il dit cette publication est une honte. C'est la pire étude que j'ai jamais vue de toute l'histoire de la Réserve fédérale. Les personnes associées à cette étude devraient probablement être sanctionnées. L'obscurantisme aussi atteint des sommets dans l'Amérique de Trump.
Incroyable. Merci Emmanuel. Le Chypre, le bilan un an après, pas fameux pour Donald Trump. À suivre donc. Merci Emmanuel. Il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, c'est l'avocat spécialiste des questions de sécurité, Thibaut de Montbrial. Faut-il interdire la marche en hommage à Quentin de Ranque, prévue demain à Lyon? Laurent Nunez dit qu'il ne demandera pas cette interdiction. Les réponses de Thibaut de Montbrial sur RMC et BFM TV. Juste après, la semaine face à Canteloup, Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Même le vendredi.
Y compris le vendredi, exactement. Bonjour à tous les amis. Alors l'actu est dure, je sais. Alors pour se changer les idées, je vous propose une petite histoire. Je vais vous raconter l'humiliation que j'ai subie hier chez moi. Parce qu'en ce moment, ma femme veut qu'on regarde l'île de la tentation. Vous connaissez? C'est cinq couples qui vont sur l'île du plaisir. Voilà, on sépare les hommes des femmes. Les femmes partent, les femmes en couple, elles partent toutes sur une plage avec Victor Porcher. Non, je rigole. Avec 10 beaux gosses musclés. Et les hommes en couple, ils partent avec 10 ingénieurs en aéronautique convenablement vêtus. Vont-ils succomber à la tentation? Et alors, naïvement, je demande à ma femme, si tu me voyais au feu de camp et que je drague une tentatrice, tu réagirais comment? Elle m'a dit, bah, je me dirais, j'espère qu'il l'a pécho parce que, mais je suis même pas sûr que tu y arriverais. Et je trouve ça vexant. C'est vexant. Elle me dit, oui, tu joues pas dans leur ligue, tu les intéresses pas, ces meufs-là. Donc, elle va te mettre un râteau devant la France entière et moi, je vais avoir la honte devant mes copines. Donc, j'espère que tu vas la pécho. Donc, voilà. Voilà où on en est à la maison. Alors, depuis hier, je drague les tentatrices sur Instagram pour lui prouver que je peux. Pas une réponse. Je peux faire l'île de la tentative, moi, pas plus. Je n'ai pas le sex appeal du prince Andrew.
Oh.
Vous avez vu le prince Andrew? Il a été arrêté. Ah ouais, la transition.
Faut se mouiller la nuque.
Il a été arrêté dans le cadre de l'affaire Epstein et il a reçu immédiatement d'ailleurs un SMS sur son téléphone portable. Un merci de la part de Jean-Luc Mélenchon. Ah, ouf! On parle d'autre chose que de Raphaël Arnaud. Donc la police a perquisitionné ses résidences hier. On va trouver des trucs incroyables dans ces disques durs au prince Andrew. Déjà la semaine dernière, quand ils avaient retrouvé, vous savez, la sex tape de Yannick Noah et Jean-Jacques Goldman, nu dans une piscine de Nutella, avec Sarah Knafo et Coxie qui chantent « Garçon, si t'enlèves la CD », en léchant la couverture d'un livre d'Éric Zemmour. On avait trouvé ça la semaine dernière. Là, ils vont dégainer encore pire. Je sais pas, Mélenchon en string sur un yacht avec Bernard Arnault, ou de la nécrophilie sur la reine. Non mais je m'attends à tout maintenant. Hein. Attendez, personne n'a plus de pouvoir que la famille royale d'Angleterre pour couvrir une affaire. Imaginez les dégueulasseries que le prince Andrew a dû faire pour que ça sorte quand même. Ça doit être atroce. Toutes les adolescentes qui se brossaient les cheveux. Un jour, mon prince... Tu vois débarquer le prince Andrew.
Je suis là.
Oh merde. Et en plus, il est venu avec sa mère morte.
Mais non, c'est Camilla Parker Bowles, c'est ma belle-sœur.
Si elle est vivante.
Bon, d'ailleurs, le frère de Jeffrey Epstein a témoigné. Il ne croit pas à la thèse du suicide.
Oui, pour lui, son frère a été assassiné. Oh, alors quand même. qui aurait pu vouloir le faire taire? À part la moitié des hommes les plus puissants de cette planète. Bon, en tout cas, le criminel, on sait que c'est pas Woody Allen. Hein. Je le vois pas pénétrer de force dans une prison de haute sécurité et étrangler à main nue un type d'1m85. Je l'imagine déjà pas réussir à ouvrir un pot de confiture, Woody Allen. Je le vois tellement demander ça à sa femme. Chérie?
Oui, papa?
J'arrive pas à ouvrir le pot.
Mais moi, je suis encore sur le mien, alors attends un peu.
Oh. On sait que c'est pas Jack Lang qui l'a tué non plus. Sinon, il lui aurait piqué 50 balles pour le taxi du retour. Alors, à propos, il y a un nouveau visage à la tête de l'Institut du Monde Arabe. Alors, je veux pas dire que Jack Lang est retourné chez son chirurgien esthétique. Je veux dire qu'il est parti et il a été remplacé par une conseillère diplomatique d'Emmanuel Macron. Car oui, Macron a des conseillers diplomatiques. Vous saviez ça? Pas évident. Ça se voit pas trop. C'est pas la diplomatie qu'il caractérise le plus. C'est un emploi fictif, ça. C'est comme styliste de Sébastien Lecornu. Et donc, c'est Anne-Claire Legendre qui a été nommée. Elle va faire le tour de l'Institut. Voilà. Sa première mesure, ça va être de libérer les enfants du sous-sol. Ne t'inquiète pas, le monsieur en plastique n'est plus là. Il est parti. Et le prince Andrew a été arrêté.
Ouais!
Bon, ça se termine bien.
La plus grande ferme du monde, le Salon de l'Agriculture, ouvre ses portes ce week-end. Alors, on a un Salon de l'Agriculture sans vaches.
Sans toit, on a dit. Mais alors, attention, il y aura plus de lapins, de chats, de chiens. Il y aura, voilà, des chats, des chiens et des lapins. C'est pas le Salon de l'Agriculture, c'est le salon d'une femme célibataire de plus de 50 ans.
Mon salon.
Bon, je vais pas faire la vanne d'après alors parce que celle-là est bien. Le salon de l'agriculture sans vache, c'est un peu voilà comme le salon de la voyance sans escroc. Il va manquer un truc. C'est comme le salon de l'érotisme sans Victor Fourchet. Qui traîne dans les allées. Non, mais il manquera un truc. Alors, dans le même temps, le gouvernement nous recommandait de manger moins de viande la semaine dernière. C'est pour aider la planète. Et c'est vrai que les vaches émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne mange que de l'herbe. Voilà, ça génère du gaz. Je le sais, j'ai eu une ex-végane. Je suis bien placé pour en parler. C'est pas avec des vannes comme ça que je vais pécho à l'île de la tentation. Hein.
Non.
Allez, bon week-end.
Bon, merci beaucoup Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les jours en podcast et en tournée. Victor Ponchet, vous pouvez dire merci aussi, vous avez été rhabillé là.
C'est vrai
matin.
Que,
pour l'hiver. Et Arnaud, on vous retrouve à Orange pour une date caritative exceptionnelle pour les orphelins de l'armée de l'air et de l'aviation civile.
Oui.
Toute la recette versée aux familles, et puis également votre nouveau spectacle qu'on retrouve à Orange bien sûr, mais à Dijon, Montpellier, Lyon hier, ou encore Creutzwald chez nos amis Lorrain.
Voilà,
spectacle
RMC.
RMC, disons-le. 8h21.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
Et Nathalie est en direct avec nous ce matin. On parle du permis de conduire, l'examen qui pourrait être facilité, franchir le stop sans s'arrêter, ne serait plus forcément éliminatoire, idem pour changer de voie sans avoir effectué les contrôles. Nathalie?
Oui.
Bon, vous êtes favorable à ce qu'on a soumis?
Je trouve ça complètement débile parce que déjà pour être moniteur, moi j'avais un ancien moniteur, ils ont baissé les niveaux pour qu'il y ait plus de gens qui puissent apprendre à conduire aux autres. Et puis alors ils embêtent les personnes d'un certain âge, ils veulent leur faire repasser des visites alors que des jeunes déjà 17 ans, c'est complètement débile. Vous savez, à 18 ans, vous savez bouger une voiture, mais vous savez pas conduire.
Non, on est d'accord que quand on passe le permis, c'est pas le moment où on sait conduire, il faut de l'expérience.
Voilà.
Mais bon.
Alors, moi, je dis qu'ils embêtent les personnes âgées, et là, vous grillez un stop, et ben, vous avez votre permis.
Non, alors, ça change pas la règle, hein. Par contre, on n'a pas le droit. Qu'on soit bien clair, tous ceux qui nous écoutent en conduisant ce matin, on s'arrête au stop, hein. Toujours. Au mieux. Qu'on n'a pas changé le code de la route. Puis c'est vrai que c'est écrit dessus. Il a raison, Arnaud Demange, c'est facile. Nathalie, merci beaucoup. Merci de votre appel au 32-16. Il est 8h22. Dans un instant, Thibaut de Montbrial, spécialiste des questions de sécurité, invité du face-à-face sur RMC et BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabillet.
La marche en hommage à Quentin de Rancque prévue demain à Lyon ne sera pas interdite, assure le ministre de l'Intérieur. Malgré la demande du maire de la ville qui craint des débordements, Laurent Nunez promet un dispositif de sécurité renforcé. Pendant ce temps, l'enquête avance. 7 hommes sont désormais mis en examen. 6 pour homicide volontaire, 1 pour violence et complicité de meurtre par instigation. Il s'agit de Jacques-Élie Favreau, l'assistant du député insoumis Raphaël Arnaud. Il est en détention provisoire. La vigilance vigilance baisse d'un cran pour les crues dans le Lot-et-Garonne et la Gironde rétrogradée en orange. Trois départements maintenus en vigilance rouge, à vigilance maximale, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. Pour tous les sinistrés, Sébastien Lecornu promet une indemnisation au plus vite et des dossiers traités dès la semaine prochaine. Son visage hagard fait la une de la presse britannique ce matin. L'ex-prince Andrew, placé en garde à vue hier puis relâché, il est accusé d'avoir transmis des documents confidentiels au criminel sexuel Jeffrey Epstein. Le roi Charles III a exprimé sa volonté que la justice suive son cours. Aux Jeux Olympiques, nouvelle chance de médaille pour la France en biathlon avec la mass start chez les hommes. C'est à 14h15 cet après-midi. Hier, deux médailles françaises supplémentaires, de l'argent et du bronze sur la toute nouvelle discipline des Jeux, le ski alpinisme. La météo, globalement, le temps sera un peu plus calme aujourd'hui, hein, malgré ces vigilances orange et rouge pour crues. Du soleil près de la Méditerranée avec encore pas mal de vent, des éclaircies aussi sur le sud-ouest en journée. Ailleurs, ça restera gris avec des averses dans l'est et de la pluie près de la Manche. Les températures en hausse cet après-midi de 8 degrés à Nancy et Strasbourg, 11 à Paris et Lille, 17 à Montpellier, 19 degrés à Bastille.
Face à face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Thibaut de Montbrial.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le rappelle, vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et avocat au barreau de Paris. Votre analyse d'homme de droit contrat ce matin. Votre dernier livre, je le rappelle, La France, le choc ou la chute, publié l'année dernière. On va évidemment revenir sur les conséquences politiques de la mort de Quentin Derenc, que vous parlez de bascule, de premières mises en examen sont tombées hier. Mais d'abord, cette marche pour Quentin, appelée demain dans les rues de Lyon pour rendre hommage à ce militant nationaliste, elle est prévue à 15h. Et ce matin, chez nos confrères de RTL, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce qu'il ne l'interdira pas. Est-ce une bonne décision ou une forme de folie ?
Vous savez, le ministère de l'Intérieur, quand il est saisi de ce genre de d'arbitrage, se fonde sur une question juridique, c'est est-ce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public ? C'est ça le critère. Pour répondre à cette question, il est alimenté notamment par les services de renseignement. Et ensuite, pour arbitrer, une fois qu'on a ces premiers éléments, se pose la question, si on estime qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public, ce qui est à l'évidence le cas, de savoir si on est en mesure de les contenir, de les accompagner, et si le risque d'une interdiction ne causerait pas
plus
des troubles plus grands, supérieurs à l'autorisation. Donc, moi, j'ai pas évidemment tous les éléments qui sont en possession de Laurent Nunez, mais il y a aucune raison de douter du fait que cette décision a été prise après une mûre réflexion et une analyse des remontées du renseignement d'une part et des capacités de la préfecture du Rhône à mettre des éléments de CRS ou de gendarmerie mobile pour encadrer la manifestation.
Laurent Nunez a d'ailleurs parlé en effet de renforts policiers extrêmement nombreux. Il n'a pas voulu détailler précisément le dispositif policier. Néanmoins, on vous entend, ça paraît très contre-intuitif parce que oui, les risques à l'ordre public sont là. Quand on connaît, d'après les renseignements, d'après les informations dont nous disposons, les profils qui pourraient participer à ce rassemblement demain dans les rues de Lyon, mais pas qu'à Lyon d'ailleurs, hein, d'autres rassemblements sont annoncés. On se dit, est-ce vraiment bien raisonnable ?
Oui, mais l'émotion suscitée par la mort de Quentin et par ses circonstances fait que à un moment donné, on peut pas empêcher qu'il y ait des rassemblements. Toute la question, c'est de savoir si, en les interdisant, on risque de voir se développer des réunions sauvages, et à ce moment-là, avec le risque que les services de l'État soient pris de court et tout ce qui peut en découler comme perte de contrôle, ou si au contraire, après encore une fois l'arbitrage entre les éléments des services de renseignement et, j'insiste, mais c'est ça qui est essentiel, la capacité qu'estime avoir l'État d'empêcher les débordements, il vaut mieux autoriser pour au moins être présent et encadrer le mieux possible.
C'est ce que Laurent Nunez appelle cet équilibre délicat entre le maintien de l'ordre et aussi une forme de liberté, liberté d'expression.
Oui, parce que évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que le principe, c'est la liberté de manifester. Moi, je pense que compte tenu des éléments, vous savez, les services de l'État sont bien renseignés sur ce genre de sur les ultras, sur ces mouvances-là, le renseignement territorial, éventuellement appuyé par la DGSI pour les gens les plus dangereux.
Oui, parce que on rappelle, on est à Lyon, Encore une fois, on n'est pas loin de la frontière italienne, on n'est pas loin d'autres frontières européennes aussi. D'autres membres de l'ultra-droite d'autres pays européens pourraient se joindre à ce type de marche.
Oui, et de l'ultra-gauche,
parce parce qu'en effet, des risques d'affrontement sont craints.
Et parce qu'en l'occurrence, vous venez de dire quelque chose qui est important, c'est que il y a un risque qu'on a éprouvé, notamment lors de certaines manifs écolos durs, comme contre les méga-bassines en 2023, etc. Il y a un risque d'arriver d'éléments ultra de l'étranger. Et en l'occurrence, ces dernières années, c'était des gens de l'ultra-gauche. Mmh. Donc, encore une fois, ça nous ramène au renseignement. Mmh. S'il y avait un risque avéré d'arrivée massive d'éléments étrangers susceptibles d'être armés, etc., la décision serait peut-être différente. Les services de l'État ont ces éléments que moi, j'ai pas par définition.
Mais vous comprenez, sans doute, je parle d'inquiétude, c'est peut-être au-delà de ça, des habitants de Lyon, du quartier où pourrait se tenir cette marche blanche sur près d'un kilomètre. Dans la presse ce matin, des reportages aussi en radio faisaient état de messages passés dans les quartiers où aurait lieu cette marche, de dire si vous êtes racisé, je mets de gros grimets à ça, quittez les lieux en gros. Vous parliez de bascule, on pourrait arriver à ça quand même demain Alors, peut-être les scènes auxquelles on peut s'attendre.
En fait, le risque de bascule sur lequel j'attirais l'attention dès le milieu de semaine, c'est que la violence politique en France a considérablement augmenté ces dernières années. Mmh. Il y a le nombre d'élus agressés depuis 2020 a quasiment doublé. Donc, on est rentré dans une logique qui trouve ses fondements dans de profondes fractures au sein de la société française de différentes natures. On est rentré dans une logique où l'affrontement physique n'est plus tabou. C'est ça qui est dramatique.
Oui, avec vous le rappeliez aussi, parce que j'aimerais qu'on s'attarde quand même sur le fait que cette marche ait lieu. Vous parliez d'un dispositif policier, c'est un équilibre très délicat, encore une fois, de la part des autorités, de l'autoriser ce matin. Vous parliez d'un dispositif important. Jeudi dernier, aux abords de Sciences Po Lyon, il y avait des policiers. Ce n'a pas empêché ce qu'il s'est déroulé. Et donc, à l'issue, la mort tragique de Quentin Derenck.
Oui, mais
c'est ça aussi qui est en jeu.
C'est ça qui est en jeu, mais pour comprendre sur le dispositif, on en a parlé. Maintenant, je pense qu'il faut éclairer ça dans un environnement plus large. Ce qui est extrêmement inquiétant, et c'est pas simplement à Lyon, c'est dans toute la France, c'est que les radicalités violentes n'arrêtent pas de se multiplier, et le risque qu'il y a, c'est qu'il y ait une perte de contrôle, mais pas demain, qu'il y ait une perte de contrôle dans les jours, dans les semaines qui viennent, parce que des affrontements se multiplient, parce que des violences graves se perpétuent, et parce que d'autres gens soient gravement blessés ou tués. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter. Et le regret que j'ai, parce que et là je sors de la question stricte de Lyon demain, le regret que j'ai, c'est que la gravité de ce qui s'est passé la semaine dernière aurait dû conduire l'ensemble de la classe politique, tout parti confondu, à se dire, attendez, là, on va mettre sur pause deux minutes. Il y a un problème majeur et la situation pourrait nous échapper.
De tout bord, vous dites que notre classe politique n'est pas à la hauteur?
Je finis mon développement. Je pense que il aurait dû y avoir une prise de conscience générale. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, ce qui m'inquiète le plus, structurellement, pas tactiquement, mais structurellement, c'est que la France insoumise est rentrée dans une espèce de logique de l'assiégé. Et au lieu de reconnaître qu'il y avait un problème et de faire un pas de côté, malheureusement, elle alimente les tensions par ses positions.
Et on reviendra en effet sur la France insoumise, sa décision aussi de ne pas exclure Raphaël Arnaud, le député insoumis dont l'assistant parlementaire est mis en cause et mis en examen d'ailleurs depuis hier.
Non mais deux assistants parlementaires et un stagiaire, ça
absolument.
Fait trois.
Mais le troisième n'est pas mis en examen, n'a pas été considéré comme directement impliqué dans ce qui s'est passé jeudi dernier. Mais on y reviendra parce que vous êtes, encore une fois, je le rappelle, avocat. Juste un mot sur la demande du maire de Lyon, Grégory Doucet, de ne pas voir cette marche blanche avoir lieu demain. Il a demandé à ce qu'elle soit interdite. Et cette demande de son adversaire à la mairie, parce que des municipales se jouent dans quelques jours, d'afficher sur la mairie de Lyon le portrait de Quentin Derenck. Grégory Doucet, maire écologiste, considère que c'est inapproprié, que ça n'a pas lieu d'être. Est-ce que vous le comprenez?
Grégory Doucet parle à son électorat. Des liens manifestes existent entre la mairie de Lyon sous le règne, si j'ose dire, de Monsieur Doucet et la Jeune Garde. Il y a des choses très ambiguës qui sortent. Donc il est dans une logique, en l'occurrence, qui est une logique d'engagement que chacun appréciera. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que son adversaire ne le soit pas de son côté. Mais je pense que les positions de Monsieur Doucet ne sont pas simplement guidées par l'intérêt général.
Guidées par
l'intérêt général.
Mais guidées donc par
son intérêt particulier.
Et la politique, donc.
Et la politique.
Qui reprend ses droits. Vous disiez de tous bords. J'aimerais qu'on s'attarde là-dessus quand
bien
même.
Sûr.
Parce que la politique reprend ses droits.
Oui.
Également, les réactions ont été extrêmement nombreuses. Celle du ministre de l'Intérieur a marqué les esprits. Il a pointé directement, comme vous le faites ce matin, la France insoumise et ses responsabilités. Le président de la République est rentré dans le jeu hier. Il a pointé, évidemment, la responsabilité des partis d'extrême gauche, mais appelé à faire le ménage des partis aussi d'extrême droite.
Oui.
Est-ce que vous entendez aussi ce message? Que le ménage soit fait aussi, parce que ça fait un peu les affaires du Rassemblement National aujourd'hui, cette
Alors,
affaire.
Ce que j'entends de la part du président de la République et qui est dans son rôle, c'est l'appel à l'apaisement.
Oui.
Et c'est tout à fait légitime qu'il le fasse. Maintenant, si on rentre dans le détail de l'évolution de la violence politique de ces dernières années, il existe évidemment une violence politique d'ultra-droite, c'est une évidence, mais il y a une énorme différence depuis une quinzaine d'années, c'est que alors que jusqu'il y a 15-20 ans, il pouvait y avoir un lien avec des formes de soutien avec ce qu'était à l'époque le Front National, Marine Le Pen a fait des efforts considérables pour dissocier les groupuscules d'ultra-droite du parti politique. Je rentre pas dans le détail de savoir si c'est un plein succès, s'il n'y a pas encore quelques...
Ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Rassemblement National sous Marine Le Pen.
Oui,
mais est-ce qu'on exonère peut-être pas trop vite ce parti de son passé, de ses liens, de ses accointances aussi? Est-ce que c'est pas un peu simple aujourd'hui, cette lecture?
Ça, chacun l'appréciera.
Oui.
Ça, alors la réponse, elle est purement politique. Mais on peut dire il y a 15 ans, il y a 20 ans, etc. Mais le point à voir aujourd'hui, en 2026, c'est que la seule force politique qui est élu à l'Assemblée nationale, qui assume, et c'est ça moi qui me désole, c'est que c'était l'occasion de s'en dissocier, mais qui assume un groupuscule qui commet des violences et des violences graves, c'est la France insoumise. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a raté collectivement, la classe politique a raté une occasion.
Qui assume ces violences, je fais juste une précision et une parenthèse qui a aussi son importance.
Oui.
Jean-Luc Mélenchon, la semaine dernière, a quand même affiché sa compassion à l'égard de la famille de Quentin Derenque. Précision importante parce que le ministre de l'Intérieur a dit le contraire hier, et donc il a affirmé effectivement que c'était un drame.
Attendez,
précision faite.
Mieux vaut tard que jamais, par contre, précision pour précision, le 30 avril 2025, Jean-Luc Mélenchon à Auxerre, il dit expressis verbis que la jeune garde est alliée et liée, il dit les deux, est alliée et liée à la France insoumise, quand Raphaël Arnaud est élu à l'Assemblée nationale, ce qui est en soi un événement absolument hallucinant quand on y pense. Quand il est élu, il est ovationné par le groupe LFI qui se met debout dans l'hémicycle pour l'accueillir, alors qu'on sait qui est Raphaël Arnaud. Donc, après
mais les électeurs ont voté, Thibault de Montréal en même temps.
Je suis d'accord.
Ouais.
Non, mais vous avez complètement raison. Ça, c'est un sujet. Mais avant que les électeurs votent ou après qu'ils aient voté, c'est un individu dont on connaissait le parcours, dont on connaissait les liens qui ont continué à exister. Il y a un reportage qui a été publié par vos confrères de Quotidien.
Absolument.
Absolument.
De leurs universités d'été.
Université de LFI, où on voit Raphaël Arnaud dire nous et on en parlant d'un groupe qui a été dissous.
Les appels à la démission, retrait au moins de Raphaël Arnaud sont très nombreux. Manuel Bompard l'a redit hier de la France Insoumise. Il a martelé qu'il n'était pas question de suspendre le député insoumis, considérant qu'il ne saurait être tenu responsable des actes de ses salariés. Parce qu'en effet, on parle de ses assistants parlementaires, dont Jacques-Élie Favreau, qui a été mis en examen hier pour complicité de meurtre, placé en détention provisoire. L'homme de droit que vous êtes, là encore une fois, c'est important de vous avoir sur cette antenne ce matin. L'avocat, vous entendez ces arguments?
Non. Moi, je considère que c'est un scandale pur et simple. C'est un scandale politique majeur. C'est plus du droit, c'est de la pression politique. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, quand on exerce les fonctions qu'exerce Monsieur Bompard, prendre cette position, qui est une position de provocation, qui est une position de tension, qui va exactement à l'encontre de cette posture d'apaisement qu'il faudrait absolument, auquel chacun devrait absolument s'astreindre. Et je pense que la France insoumise souffle sur les braises. Je vous le dis comme je le pense.
Souffle sur les braises.
Souffle sur les braises, oui.
Et effectivement, se pose la question d'une grande bascule politique également.
Oui.
Jordan Bardella n'a pas hésité à faire une conférence de presse sur le sujet. Certains commentateurs ont vu ça comme une revanche aussi politique, parlant de cordon sanitaire avec la France insoumise. Ah bah. Une forme d'inversion aussi. L'histoire utilisait le cordon sanitaire contre le Front National d'alors.
Je pense que monsieur Bardella, c'est fait sur ce coup-là, n'a pas manqué de prendre une forme de revanche sémantique. Ça, c'est son problème. Mais je le constate comme vous.
Thibault de Montbrial, vous avez été candidat il y a 5 ans en 2022 oui. législatif sous l'étiquette LR. Oui. Est-ce qu'il doit y avoir une clarification aujourd'hui du bloc central ? Certains l'ont fait, sur le NINI, ni RN, ni LFI.
Alors je vais vous faire une réponse, mais pour que, puisque vous avez fait mention de ma candidature il y a 5 ans, je voudrais ajouter que je n'ai jamais eu de carte politique, ni à LR, ni ailleurs. J'ai eu l'investiture, mais pas la carte, que je ne me suis pas représenté en 2024, et que la phrase qui va suivre n'engage personne, n'engage aucun parti politique.
C'est très clair.
Moi, ma position personnelle, c'est que aujourd'hui, mais c'est pas la première fois que je le dis, le seul, en 2026, le seul parti anti-républicain en France, c'est la France Insoumise.
Le seul parti anti-républicain. Et donc, dans l'isoloir, vous avez le secret de vote, mais l'homme public que vous êtes, un vote LFI, un vote RN, vous mettez quel bulletin ?
RN à 8h du matin.
RN à 8h du matin, vous n'avez... n'hésitez pas une seconde.
Pas une seconde, dans ce cas très précis.
Oui, parce qu'il faut aujourd'hui faire barrage à la France Insoumise.
Mais le barrage à la France Insoumise, à mon sens, commence bien en amont. L'idée, c'est d'essayer de ne pas arriver à ce choix-là. Mais puisque votre question, c'est si on arrive à ce choix-là, moi, je vais pas tortiller comme beaucoup de gens pour finir par... je vous dis, dans ces cas-là, dans ce cas-là seulement, à 8h du matin, RN. Mais l'idée, c'est d'éviter d'en arriver dans ce cas-là.
Thibaut de Montbrial se pose aussi la question de la dissolution de ces groupuscules violents. Bruno Retailleau, désormais patron des Républicains, anciennement ministre de l'Intérieur, revendique le fait d'avoir dissous, notamment la Jeune Garde, mise en cause dans ces violences et dans la mort de Quentin Xeranc, groupe dissous, mais qui visiblement continuait d'exercer, ou en tout cas d'avoir des liens. Ça pose la question, en effet, de l'efficacité de la décision des autorités publiques. Encore une fois, je reviens à votre rôle d'avocat. C'est extrêmement compliqué parce qu'ils peuvent se reformer, notamment grâce aux réseaux sociaux, aux téléphones portables, les réseaux Telegram. C'est aussi ça la réalité de ce monde.
C'est vraiment une question très importante que vous posez, parce que beaucoup de gens se posent la question que vous posez. Mais en réalité, le droit est en général assez bien fait et il y a des étapes successives. Quand vous prononcez la dissolution d'un groupe, quel qu'il soit, les gens qui continueraient à faire vivre ce groupe dissous entrent sous le coup d'une autre d'un autre article du code pénal qui est la reconstitution de ligue dissoute, ce qui est puni de 5 ans de réclusion de prison.
C'est-à-dire que si la justice est en capacité de d'établir que après dissolution des liens existent encore, c'est pénalement à nouveau répréhensible.
Et un certain nombre de reportages cette semaine ont montré que depuis sa dissolution en juin 2025, la Jeune Garde a continué à avoir des réseaux sociaux, à se réunir, à ses membres à discuter,
c'est le cas aussi,
etc.
Et disait Laurent Nunez, pour Génération Identitaire. Alors, la justice est saisie.
Vous voyez,
qualifié d'extrême droite.
Donc c'est bien la preuve il peut y avoir des enquêtes pour reconstitution de ligue dissoute. Donc c'est pas si compliqué que ça. Mais par contre, après, ce sont des décisions qui sont de plus en plus politiques. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur qui déciderait de faire d'engager des poursuites pour reconstitution de ligue dissoute, il monte un cran dans la pression pénale. À mon sens, il faudrait pas hésiter à le faire, parce que je comprends pas très bien la logique qui consiste à dire c'est des gens dangereux, on dissout, et puis à pas aller au bout du raisonnement en ne poursuivant pas quand les activités continuent manifestement. Ça va être intéressant de voir ce qui arrive à la Jeune Garde dissoute mais qui continue à exister dans les semaines qui viennent.
Thibaut de Montbrial, j'aimerais terminer cet entretien avec ce moment qui s'est passé sur l'antenne de BFM TV hier soir à l'occasion du débat des municipales à Marseille, et ces mots de la candidate de droite et du centre, Martine Vassal, à qui l'ont demandé quelles étaient ses valeurs, et qui le dit, qui reprend un slogan tout simplement pétainiste, travail, famille, patrie, ajoutant la solidarité, je crois. Vous dites quoi ? Maladresse ou alors, pure folie de sa part ?
Je vais vous faire une confidence. Je suis actuellement au procès de Paty en appel. Je suis l'avocat de la sœur de Samuel Paty, Michael.
Absolument.
J'ai pas vu cette séquence. Ouais. Donc, si elle l'a dit comme vous venez de me le dire, les bras m'en tombent. Mais encore une fois, je dis si, c'est pas contre vous. C'est juste que je l'ai pas vu.
Ouais, donc, je vous confirme qu'elle vous l'a dit.
Je ne peux pas vous dire mieux. Si elle l'a dit exactement comme ça, je suis surpris que des formules qui rappellent et qui dépassent le sens des mots. Parce que je pense que ce qu'elle a dû vouloir dire, c'est en le disant, c'est que chacune de ses valeurs était importante. Mais si elle l'a dit comme ça, il y a des formules qui dépassent le sens des mots, et il y a des formules historiques qui sont inacceptables.
Merci beaucoup Thibaut de Montbrial d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci Marie Chantrey. Dans un instant sur RMC, la semaine face à Canteloup. Nicolas Canteloup qui revient sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Inde et sur le tournoi des 6 nations avant le match du 15 de France dimanche.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Maud Brejon, la porte-parole du gouvernement, était face à Apolline et Emmanuel Macron a tenu à réagir à son interview.
Oui, bonjour. Même sans mes lunettes, vous voyez, ça marche.
Oui, ça marche pas mal.
Vous voyez, ça s'appelle le charisme. Voilà. Vous pouvez pas comprendre autour de cette table. Écoutez, Maud Brejon a parlé insécurité, je l'ai entendu, elle a parlé violence, elle a parlé budget, mais elle a pas abordé tous les sujets. Elle a oublié un sujet le plus important. J'ai vendu 114 avions Rafale aux Indiens. Hein, et vous voyez, dès que je mets des lunettes de Top Gun, ça, voilà. Paf, je vends 114 Rafale. Et encore, je serais arrivé la chemise ouverte, hein, sur un bronzage impeccable, je refourguais 40 centrales solaires aux Indiens.
C'est sûr. Vous êtes en route pour une visite d'État de 3 jours en Inde.
Oui, écoutez, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'Inde et de leur culture. Souvent, les Français, je les entends se plaindre d'être des vaches à lait, mais en Inde, ce seraient des vaches sacrées. Donc, faire payer l'impôt aux Français, c'est les respecter, les Français. C'est même, quelque part, les honorer.
Ah oui, on l'avait pas dit comme ça. Merci, monsieur le président. Maud Brejon, vous souhaitiez ajouter quelque chose, tiens, vous revenez là, sur le remaniement à venir, peut-être?
Oui, tout à fait. Nous avons entendu les Français souhaitent avoir au gouvernement des personnalités d'expérience, des poils longs. À ce titre, pour remplacer Rachida Dati et Amélie de Montchalin, nous avons pensé au gouvernement à des ténors de la politique, David Amiel et Catherine Pégard.
Catherine Pégard, vous voulez dire, l'ancienne administrative du château de Versailles.
Voilà, Pégard, c'est ça, voilà. Vous voyez, vous la connaissez, vous voyez. Elle sera donc nommée à la culture, bien sûr, dès que Madame Dati aura décidé de son propre gré de quitter ses bureaux. Je lui ai d'ailleurs, à ce titre, envoyé un message ce matin pour lui suggérer donc d'entamer son déménagement au ministère de la Culture. Et très réactive, Rachida Dati m'a répondu, elle m'a invité à me faire cuire le cul sur une grille de four. Donc, vous voyez, ça avance, le dialogue n'est pas rompu avec
C'est beau. Merci. François Hollande était mon invité. Il est encore avec nous, monsieur le président.
Ah, écoutez, ce sont de très bonnes habitudes, madame de Malherbe.
Quelles bonnes habitudes?
Mais celle de m'appeler monsieur le président. Et comme toutes les bonnes habitudes, je vous invite et vous encourage à les conserver, madame de Malherbe. Bref, je ne suis pas là pour rappeler que j'étais président de la République, comme je le fais habituellement toutes les 5 phrases. Puisque je ne le fais pas, puisque vous le faites à ma place. Et d'ailleurs, le président de la République que j'étais vous en remercie.
Bah justement, tiens, vous laissez quand même planer le doute sur votre candidature pour 2027, non?
Non, pardon, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne laisse pas planer le doute. Pardon. Excusez-moi, une petite remontée, ce sont les viennoiseries. Oui, j'ai un peu tapé dedans. Et c'est vrai qu'à la quatrième, je me suis dit, il faut que tu t'arrêtes. Et vous voyez, j'étais bien inspiré. Oui, donc je disais qu'il n'y a pas de doute. J'ai dit que le candidat de gauche devait soutenir la gauche, pardonnez-moi,
oui.
Devait soutenir le meilleur candidat. Quand je dis meilleur candidat, vous pensez que je parlais de qui? De Jérôme Gage, de Boris Vallot. Alors, je sais que nous sommes dans le cadre d'une émission humoristique, mais quand même. Et pourquoi pas aussi Olivier Faure 2027. J'imagine déjà la liesse sur les Champs-Élysées. Non, soyons sérieux. Vous l'avez compris, le moment exige du sérieux.
Alors effectivement, l'actualité est grave. Après la mort de Quentin Derenc, le PS doit-il vraiment rompre avec les Insoumis?
Les méthodes des Insoumis ne sont pas les méthodes de la gauche à laquelle j'appartiens, madame Le Ballet. Moi, les personnes les plus extrêmes que j'ai côtoyées, c'est Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve. Moi, je n'ai jamais eu besoin d'une jeune garde, puisque j'avais une vieille garde. Michel Sapin, Jean-Yves Le Drian. Et avec eux, il n'y a jamais eu de débordement violent. Si, peut-être le seul souvenir que j'ai pu avoir, c'est peut-être, oui, une violente envie de dormir lorsqu'il s'exprimait à la tribune.
On va parler rugby avec le sélectionneur du 15 de France. Bonjour Fabien Galthié. Quelle belle victoire hier dans le tournoi des Destinations contre le Pays de Galles.
Moi, je tiens à féliciter nos joueurs. Oh, au au-delà du résultat, la qualité du rugby proposé, la variété dans le jeu, tu vois, l'impact, il y a eu de la puissance, il y a eu de la force, de l'intensité. On a fait un très bon match, un match physique, un match référence. Où je dis match parce que quand tu gagnes 54-12 contre l'adversaire, c'est que, en l'occurrence, les Gallois, c'est que tu l'as vraiment mâché, tu vois. Tu l'as déchiqueté, mangé tout cru.
Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de ce match, Fabien Galthié?
Moi, je retiens la belle prestation d'Antoine, l'implication également de Fabien, l'ouverture du score d'Emilien, le jeu au pied de Thomas, les belles combinaisons entre Louis, Charles, Julien, Théo, avec Christelle, Valentine et Marie.
On ne connaît pas tous les prénoms des joueurs, hein. Ce serait peut-être plus simple de les appeler par nom de famille, non?
Non, je te rassure, moi-même, je ne les connais pas moi-même.
Ah,
non.
Oui.
Le rugby, c'est une grande famille, tu vois. Dans la famille, tu t'appelles par le prénom, tu vois. En tout cas, merci au président de la République, je tiens à le dire, qui nous a toujours soutenus. Et ce matin, il m'a envoyé un message. Bravo, Fabien Galthié, votre 15 de France, pour cette belle victoire face aux Gallois réfractaires.
Merci Nicolas Canteloup. On vous retrouve lundi à 8h50 et à tout moment en podcast.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
Dans un instant, les GG avec vous, Olivier Truchot, de retour de Marseille. Quel est le programme, Olivier?
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les Grandes Gueules se préparent à débattre de l'actualité autour de la table. Dans un instant, Joël Dagosiri, Bruno Poncet, Emmanuel Devilliers. On reparlera de cette marche prévue demain en hommage au jeune Quentin. Elle est autorisée finalement par la préfecture. C'est la marche de tous les dangers. Le maire de Lyon voulait l'interdire. Est-ce qu'on doit craindre des débordements? On va en débattre dans un instant sur RMC, RMC Story. Vos grandes gueules vous attendent.